Bonjour tout le monde. Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Incroyable. Pfiouf. Attends, ça c'est bon, j'ai changé la catégorie, ouais, c'est bon. Bonjour. Bonjour le chat, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi, on est lundi, on est le 6 novembre. J'espère que vous n'avez pas trop froid là où vous êtes. Moi c'est bon, ils ont fini par allumer les chauffages dans mon immeuble, donc ça c'est cool. J'ai été bangé sur la musique pendant 10 minutes, suis-je fou? Non, non, tu as bien raison. Tu as bien raison, c'est une musique faite pour être bangé. Merci Vivi Sushi, merci Camille, merci Krasmazov, et merci Aude pour vos resubs, merci beaucoup. Merci à vous et bienvenue. Pour cette revue d'actu politique, on va se remettre dans le bain de l'actu. Moi le premier, en ce lundi matin. Lundi matin, ouais, 16h du matin, ouais, c'est pas mal. Ouais, carrément, ouais. Finalement, j'ai pas fait de stream depuis samedi. C'est samedi que j'ai fait un stream Play Simulator, je crois. Vendredi, j'ai dormi. Merci Utopie pour ton resub, merci beaucoup. Il y a encore la tempête, ça peut couper à tout moment, mais bon. Ah oui, vous avez eu la tempête chez vous? Il y en a eu beaucoup qui ont eu la tempête chez eux, ça a fait des dégâts. Ça va? Les toitures, les câbles téléphoniques, tout ça. Ouais. Il y en a beaucoup. Nous, à Paris, ça s'est pas trop ressenti. Ça va. Mais je crois que c'était surtout sur l'Est, toute la façade atlantique. Non, en vrai, ça va. Coupure de courant jeudi de 15h à 20h30. Bon, heureusement, il n'y avait pas Baxit. J'ai passé le week-end à couper les arbres tombés sur la route. Ah ouais, putain. La seule tempête dans le sud, c'est le soleil. Un peuplier qui est tombé. D'accord. Les coupures d'internet tout le week-end en Gironde. Oh là là. Oh là là, les coupures de courant, putain. Ça doit être chiant. L'Atlantique de l'Est. Ouais, la façade Est. L'Atlantique. Tout ce qui est du côté de Strasbourg, par exemple. Strasbourg-Grenoble, tu vois. Domingos à Bordeaux. Arbre couché. Ah ouais? J'ai des amis à la Pointe du Raz qui ont eu la peur de leur vie. Oh, Pointe du Raz, en ce moment, ça doit être dur, ouais. En même temps, Pointe du Raz, tempête. Voilà, faut être cohérent. Tu manges comment quand t'as plus de courant? C'est vrai ça, quand vous avez le courant coupé, vous faites comment? Est-ce que vous avez des réchauds à gaz? Est-ce que vous avez prévu le coup? Hommage à l'agent d'Enedis décédé en rétablissant le courant, ouais. T'es mal à Pointe du Raz. Tu manges froid, la bougie, on mange de la terre. Oui, gaz. Taboulé. Ouais, bah ouais, j'avoue, taboulé pour tout le monde, hein. On peut pas manger l'électricité? Bah non. J'allume un feu de camp dans mon 20 mètres carrés. Pizza, mais tu la chauffes comment ta pizza? Ah, tu la commandes? Oui, c'est l'autre manière de faire. Merci Zpic, merci Cam46, merci Tiraol et merci Xenarld pour vos resubs. Merci à vous pour vos abonnements. Smart food, de l'eau et du shake. Ah oui! Putain, mais faut avoir prévu le coup, hein. Puis faut vraiment avoir envie de bouffer ça, hein. Moi, j'ai jamais trouvé ça bon. Galette saucisse. Tu peux commander, mais si le pizzaiolo a plus de courant non plus, c'est compliqué. Bah ouais, ça, si le pizzaiolo du coin, il a un four à pizza électrique, ça risque d'être compliqué, ouais. Comment ils faisaient les ancêtres? C'est vrai ça, comment ils faisaient les ancêtres? Mais ils avaient des réchauds à gaz. Cuisinière au gaz. J'ai toujours du pain, du fromage et du saucisson chez moi. Ouais, c'est l'autre solution. Bah après, tu peux pas tenir des jours entiers avec ça, hein. Barbecue. Ouais, non, barbecue techniquement. Si t'as du charbon, bah après, si c'est la tempête dehors, c'est un peu compliqué le. C'est un peu compliqué le barbecue. À mon époque, on allait chercher l'électricité directement à la ferme. Eh, on vit dans une saucisse, hein. Ah là là, on vit dans une saucisse, hein. Quand il y a des coupures d'électricité, on peut plus rien faire, hein. Bonjour, je suis bloqué dans mon ascenseur, vous allez bien? Eh ben, courage à toi. Le temps d'attente est pas trop long, j'espère. Mais bienvenue sur le stream. Les ancêtres, ils savaient pas ce que ça fait de ne plus pouvoir suivre les streamers préférés sur Twitch. Eh oui. Eh oui. Terrible. Nos ancêtres, ils avaient pas Twitch. Vous vous rendez compte le niveau de solitude qu'ils devaient avoir? Il n'y avait pas Internet. C'est chaud, hein. Genre, il fallait lire des magazines. Relou. Ils écoutaient la radio, ouais. Il leur restait plus que ça. Est-ce que c'est le potichard dans la boîte grise? Non, non, il n'y a personne dans la boîte grise là. Il n'y a pas de potichard. Ils se fumaient pas la santé mentale avec Twitter, la chance. Ouais, j'avoue, ils n'avaient pas Twitter. Comment ils faisaient pour militer? Comment ils faisaient pour militer? Ils n'avaient pas Twitter. C'est terrible ça quand même. Ils étaient obligés de sortir pour avoir des interactions, ce truc de loser. Comment ils faisaient? Ils pouvaient pas accepter des quêtes. Terrible. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va, que vous avez passé un bon week-end. Pourquoi il me dit... Ah putain, j'ai les informations. C'est quoi ce truc de Windows tout pourri qui me donne les infos là? Il y a eu un incident de circulation sur une départementale et moi je reçois une notification. Mais est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de ne pas? Voilà. Merci d'avance. Comment il faisait pour les Worlds de LoL? C'est vrai ça. Il était y allé sur place? En Chine? Merci Esclian pour ton abonnement, merci beaucoup. Merci pour vos subs, hein. Ça fait super plaisir. Et ça soutient et ça permet de financer la chaîne, tout ça, tout ça. Il faisait comment les trolls surtout? C'est vrai, tu faisais comment pour troller à l'époque? Tu pouvais troller que au bar tabac? Chiant. Ah oui, c'est en Corée. Merci SDF pour les 5 subs offerts, pour les 5 subs offerts au chat, pardon, merci beaucoup.
Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup pour les 5 subs offerts au chat. C'est très généreux de ta part, merci à toi. Et bienvenue aux nouveaux abonnés du coup. Les trolls du bar tabac, ça existe encore. Ouais, mais maintenant ils ont Twitter. Comment ils pilotaient des avions du coup? Ils avaient des hautes-sons. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Bon les amis, moi ce que je vous propose, c'est une petite revue d'actualité, qu'on se remette un petit peu dans le bain de l'actu pour affronter cette nouvelle semaine. Il se passe 2-3 trucs, notamment aujourd'hui, on est le 6 novembre, c'est le début de l'examen de la loi immigration. Hop, qui arrive au Sénat, qui va être examiné au Sénat en première lecture, pour commencer. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui porte cette loi. Merci Jules But pour ton resub, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé? Qu'est-ce qui aurait changé? Il n'y a rien qui a changé. La NUPES est encore morte. La NUPES va pas super bien. C'est quoi cette loi? Eh bien justement, regarde, on va se renseigner. Hop, premier article sur le journal Le Monde. Un article au Sénat. La crise politique couve autour du projet de loi immigration. Vous allez voir que c'est une loi qui ne va pas de soi et qui possède des articles qui font débat au sein de la majorité et avec les alliés potentiels de droite, notamment les Républicains. On va voir si la majorité va réussir à obtenir une majorité. Enfin, si la majorité, non. Enfin, si, si, si la majorité relative Renaissance à l'Assemblée nationale va réussir à s'ouvrir à une majorité absolue en comptant sur les voix des Républicains, on va voir. Ajourné à de maintes reprises depuis l'été 2022, le texte porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est examiné à partir de lundi en séance publique au Palais du Luxembourg. Le Palais du Luxembourg, c'est le bâtiment où siège le Sénat de la République. Et quand on parle d'un texte, on parle bien d'un projet de loi. Il est où le texte porté par le ministre de l'Intérieur? Le texte, c'est donc un projet de loi sur l'immigration. Le projet de loi immigration peut-il déboucher sur une crise politique? Derrière les déclarations de principe, c'est le scénario redouté par une partie de l'exécutif et des partenaires. Ajourné à maintes reprises depuis son annonce à l'été 2022, l'examen du texte porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin démarre en séance publique, lundi 6 novembre au Sénat. Alors, la séance publique, c'est après l'examen en commission, c'est là où on commence à rentrer dans le dur du texte, même si en commission ils ont déjà fait un premier passage sur le texte. Je rappelle qu'on est au Sénat et qu'au Sénat il y a une majorité de droite avec les Républicains, donc le texte qui devrait sortir du Sénat serait normalement un texte qui serait assez compatible avec l'idée que s'en font les Républicains. Et c'est vrai que le projet de loi immigration avait été annoncé dès la suite de la réélection d'Emmanuel Macron, mais qu'on n'en a plus beaucoup entendu parler, il a été ajourné à plusieurs reprises. C'est vrai, il a été renvoyé à plus tard et maintenant ça y est. Merci Julie pour ton resub, merci, j'espère que tu vas bien Julie, des bisous. Alors, hop. Il y a un compromis politique à trouver, a déclaré M. Darmanin le 5 novembre sur France 2. Convaincu qu'une voie de passage existe, il s'est déclaré opposé au recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet de faire adopter un texte sans vote. Je rappelle que le texte ne peut être adopté sans vote par 49.3 que devant l'Assemblée nationale et pas devant le Sénat. Donc le Sénat a toute la liberté qu'il veut pour modifier le texte. Il n'y a pas de 49.3 possible, c'est uniquement à l'Assemblée que c'est possible. On verra s'il y a 49.3. Sur quelle base est-ce que le 49.3 est engagé? Sur quel texte de base? Ce texte, qui sera la seconde loi portant sur l'immigration sous la présidence d'Emmanuel Macron, soucieux de répondre à ce qu'il considère être une attente des Français, a été présenté par l'exécutif comme tenant d'un équilibre entre une jambe droite et une jambe gauche. Donc c'est censé être un texte équilibré d'après la majorité. Au titre de la première, donc la jambe droite, il prévoit de faire sauter les protections à l'éloignement, en particulier celles applicables aux étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans, y résidant depuis plus de 20 ans ou depuis plus de 10 ans et étant conjoint ou parent de Français. Il entend aussi accélérer l'instruction de demandes d'asile, simplifier le contentieux administratif en droit des étrangers ou encore conditionner l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle à la maîtrise d'un niveau minimal de français. Ça fait partie des mesures qui avaient été annoncées par Emmanuel Macron quand il avait présenté cette loi en 2022. Il disait « Le but du jeu de cette loi, c'est d'accélérer les procédures pour les personnes qui demandent l'asile ou pour les personnes qui veulent avoir un titre de séjour, que la personne puisse être fixée assez rapidement et accélérer également les procédures en cas de refus de nationalité devant une demande d'asile, par exemple, que la personne puisse être renvoyée dans son pays si elle n'a pas obtenu gain de cause. » Le plus rapidement possible. Bref, une accélération des procédures administratives et judiciaires. Sa jambe gauche, donc la jambe gauche du texte sur l'immigration, repose, elle, sur deux mesures principales. La simplification des régularisations des travailleurs sans papier et l'autorisation de travailler pour certains demandeurs d'asile. C'est notamment l'article 3 dont on va beaucoup parler qui prévoit cette simplification des régularisations des travailleurs sans papier dans les secteurs professionnels où il y a des tensions en matière d'emploi. Je dirais qu'on doit désormais être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, résumé en une formule, M. Darmanin, ex-membre du Parti Les Républicains, lors de la présentation de son texte dans les colonnes du Monde, c'était le 2 novembre 2022. Ça fait un an que le texte a été annoncé. Je crois qu'on avait fait une revue d'actu dessus à l'époque. Un équilibre qui n'a jamais convaincu ni la droite ni la gauche et qui est désormais devenu le symbole d'un gouvernement en mal de majorité parlementaire alors que les positions de chaque camp se raidissent. Selon l'analyse du Monde, il y a un raidissement de la gauche et de la droite qui ne se retrouve pas dans ce texte, pourtant présenté comme étant un peu de gauche et un peu de droite. Finalement, est-ce que c'est pas un texte qui ne satisfait personne ? À droite, où l'on défend désormais une réforme de la Constitution et une remise en cause des traités européens, ce texte est vu comme une synthèse des contraires. On ne peut pas à la fois vouloir expulser plus tout en régularisant massivement les clandestins, clame Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, groupe majoritaire. À gauche, le discours offensif du ministre de l'Intérieur au lendemain de l'attentat d'Arras, au cours duquel un jeune homme originaire du Caucase russe, ayant grandi en France, a tué un professeur et blessé trois autres personnes, a achevé de convaincre que l'équilibre du texte initial était un leurre. Depuis Arras, M. Darmanin instrumentalise le texte immigration en prétendant que s'il avait été adopté, l'attentat ne se serait pas produit. Il se fabrique une protection à l'encontre de toute mise en cause de sa responsabilité. Or, il n'a pas eu le courage de dire que le risque zéro n'existait pas, estime la sénatrice socialiste de Paris, Marie-Pierre de la Gontrie. Donc à gauche, au Sénat, on ne croit pas à ce texte équilibré, on ne croit pas à son équilibre, on y voit un texte encore plus répressif sur l'immigration. La preuve, les discours très martiaux, on va dire, très agressif de Gérald Darmanin après l'attentat d'Arras. Si M. Darmanin a toujours assumé vouloir faire voter son texte grâce à l'appui des parlementaires LR, il se retrouve aujourd'hui face à une droite qui rechigne à sceller un accord sur une thématique devenue l'un de ses seuls marqueurs de différenciation après son soutien en dents de scie sur la réforme des retraites et à quelques mois des élections européennes où elle redoute la concurrence de l'extrême droite. Donc, si la droite rechigne à voter ce texte, c'est parce que l'immigration est devenue son principal cheval de bataille de différenciation dans le paysage politique. On sait que la droite, les Républicains, a beaucoup de mal à exister entre une Marine Le Pen dédiabolisée et un gouvernement très droitier. Et en plus de ça, il y a les élections européennes qui arrivent et donc les Républicains sont en train de se dire que c'est peut-être pas le moment de faire un cadeau au gouvernement en votant un texte de loi. Un de ces textes de loi. D'autant qu'une grande partie des élus LR voue une hostilité grandissante au ministre de l'Intérieur, perçu comme un concurrent pour l'échéance présidentielle de 2027. Il y a ça aussi comme argument. Et si Gérald Darmanin incarnait la Macronie dans l'élection présidentielle de 2027, est-ce que ce ne serait pas un adversaire? Ça deviendrait compliqué pour les Républicains de voter un texte proposé par celui qui est considéré comme un traître, c'est-à-dire Gérald Darmanin. Je rappelle que le gouvernement Emmanuel Macron, depuis 2017, a réussi à rallier à sa cause des gens issus des Républicains. On parle de Édouard Philippe, on parle de Gérald Darmanin, on parle de Bruno Le Maire, et donc ce sont des gens qui ne sont pas appréciés par les Républicains, parce qu'ils sont considérés comme des traîtres à leur famille politique, voire même pire, des concurrents potentiels. Résultat, M. Darmanin a beau se dire chaque jour davantage ouvert au compromis avec la droite, cette dernière n'a cessé de faire monter les enchères sans jamais se satisfaire des concessions accordées. Ah, c'est un peu un jeu de dupes du coup. On risque de revivre le scénario de la réforme des retraites, tout donner aux Républicains pour n'avoir aucune voix en retour, s'inquiète le président du groupe macroniste au Sénat, François Patriat. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec François Patriat. Le risque que court la majorité actuellement et le gouvernement, c'est d'accepter des concessions aux Républicains, en espérant en échange que les Républicains acceptent de voter la loi, mais au final de n'avoir aucun Républicain qui finit par la voter, quoi. Est-ce qu'il incarne la Macronie d'Darmanin? Gérald Darmanin, il est ministre de l'Intérieur, il est donc membre du gouvernement, et il est l'un des membres de gouvernement les plus influents. Donc oui, il incarne très très bien la Macronie. À la veille des débats au Palais du Luxembourg, le président de la République, Emmanuel Macron, a fait savoir aux chefs de parti, dans un courrier dimanche, son intention d'aborder avec eux, lors d'une nouvelle rencontre à Saint-Denis, le 17 novembre, l'élargissement du champ du référendum aux questions sociétales, dont les enjeux migratoires. On va avoir un article là-dessus, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron se laisse la porte ouverte à une réforme constitutionnelle en matière de référendum. Une demande de modification de l'article 11 de la Constitution formulée par les Républicains, par le Rassemblement National et par le Rassemblement National. J'espère que ces partis politiques sont conscients de la main tendue à glisser dimanche soir M. Darmanin dans une œillade aux Républicains. La droite fait pour sa part du maintien de l'article 3 du projet de loi immigration, donc ce fameux article qui simplifie la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers qui peinent à recruter, une ligne rouge. Tant qu'il y aura l'article 3, tant qu'il y aura des facilitations à régulariser des sans-papiers, les Républicains ne voteront pas ce texte. Aujourd'hui, cette régularisation relève d'une mesure exceptionnelle laissée à la discrétion des préfets. Des critères d'appréciation leur sont indiqués dans une circulaire ministérielle de 2012 qui permet de régulariser autour de 7000 salariés chaque année. Ces dernières doivent par exemple prouver 3 années de présence sur le territoire français, fournir 24 fiches de paye attestant de leur activité professionnelle et leur employeur doit signer une promesse d'embauche. L'article 3 simplifie le dispositif et permettrait à un travailleur d'être régularisé de plein droit dès lors qu'il cumule 3 ans de présence en France et 8 fiches de paye sans être nécessairement accompagné par son patron. Donc ce n'est plus de la responsabilité des patrons. Avant, il fallait un contre-sein des patrons et la loi propose de faire voler ce contre-sein en éclats de manière à ne pas rendre les travailleurs sans papier dépendants d'une signature du patron. Le ministère de l'Intérieur défend la fin d'une forme d'esclavage moderne. La droite y voit la porte ouverte à une régularisation massive. C'est un chiffon rouge qui est là simplement pour séduire l'aile gauche de la majorité, mais qui est une brèche qui va ruiner tous les autres efforts faits sur ce texte, martèle Bruno Retailleau. Donc Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, trouve que ce projet de loi est beaucoup trop à gauche. Et donc il menace de ne pas le voter. J'en étais où ? Tac, 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 tac. L'article 3 est devenu un totem politique. Les Républicains jurent qu'il ne votera pas le texte s'il est maintenu, tandis que s'il est retiré, c'est l'aile gauche de la Macronie qui menace de bloquer l'adoption de la loi. En attendant, tout à son souhait de voir aboutir un vote, l'exécutif, donc le gouvernement, a laissé la commission des lois au Sénat, dominée par le centre et la droite, muscler considérablement le volet répressif du texte début mars. Ce dernier est ainsi passé de 27 à 48 articles. Ah oui, non, ils y sont pas allés de main morte, la commission des lois du Sénat. Quelques 70 amendements ont notamment été adoptés qui prévoient la suppression de l'aide médicale d'État, ça c'est une marotte de la droite, un panier de soins pour les sans-papiers, au profit d'une aide médicale d'urgence, la restriction des conditions d'acquisition de la nationalité pour les enfants nés en France de parents étrangers, le resserrement des critères du regroupement familial ou encore l'accès au titre étranger malade. Une transformation à laquelle souscrit largement l'exécutif. Nous sommes d'accord à 90% sur le texte voté par la majorité sénatoriale, souligne-t-on Place Beauvau. Donc Place Beauvau, donc c'est le ministère de l'Intérieur, donc c'est Gérald Darmanin, lui il continue à se montrer ouvert à un compromis avec les Républicains. La preuve, ils ont adopté plusieurs dizaines de leurs amendements qui durcissaient considérablement les conditions de séjour des travailleurs sans papier pour le regroupement familial, l'aide médicale d'État qui est devenue la marotte de la droite sénatoriale. Donc voilà, l'examen en séance publique devrait être à nouveau l'occasion pour la majorité de droite et du centre de redessiner le texte à son image. Les quelques 640 amendements déposés par les sénateurs augurent de débats intenses et le projet de loi pourrait tripler de volume à l'issue de la discussion au Palais du Luxembourg. Dans le texte de la commission, donc celui où avec les 70 articles qui ont été adoptés, dans le texte de la commission, il y avait un certain nombre de durcissements des dispositifs. En séance, il y aura une seconde étape dans ces durcissements. Donc ça va encore se durcir à partir d'aujourd'hui, lundi 6 novembre. avance Philippe Bonnecarrère, le co-rapporteur centriste du texte. Mais l'inconnu autour du devenir de l'article 3 reste entière. Le gouvernement s'est dit plusieurs fois prêt à sa réécriture, puis amoindrir sa portée. Pour amoindrir sa portée. En somme, plutôt que de prévoir une régularisation de plein droit, une circulaire serait créée qui laisserait aux préfets leur entier pouvoir discrétionnaire en matière d'admission exceptionnelle au séjour. Ah oui, donc on revient complètement sur l'esprit de l'article 3 tel qu'il est rédigé aujourd'hui. On verra si ça passera en séance publique au Sénat, cette mouture-là. Mais l'inconnu autour du devenir de l'article 3 reste entière. Le gouvernement s'est dit plusieurs fois prêt à sa réécriture pour amoindrir sa portée. En somme, plutôt que de prévoir une régularisation de plein droit, une circulaire serait créée qui laisserait aux préfets leur entier pouvoir discrétionnaire en matière d'admission exceptionnelle au séjour. J'ai lu deux fois le même paragraphe, absolument. Une solution moins disante qui a le mérite de séduire une partie de la majorité sénatoriale, sans trop heurter l'aile gauche de la Macronie, attachée à une inscription de la mesure dans la loi. Le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille, a d'ailleurs déposé un amendement en ce sens, qualifié Place Beauvau de compromis acceptable. Ah, donc le centre au Sénat propose un compromis acceptable pour le gouvernement. Mais dans le même temps, Bruno Retailleau a déposé, lui, un amendement de suppression. Un amendement de suppression, je rappelle, c'est très simple, hein, c'est un amendement qui propose de supprimer un article dans un texte de loi. Laisser un pouvoir discrétionnaire, c'est dangereux. Ça dépend comment c'est accompagné par la circulaire. Effectivement, ça dépend comment c'est accompagné. Ça remet la responsabilité sur les préfets. Mais les préfets, ils obéissent au gouvernement, donc finalement, ça reste entre les mains du gouvernement. Qui nous dit que celui-là va être bien utilisé ? Personne, justement, c'est toute la difficulté. À l'heure présente, il n'y a pas d'accord sur l'article 3, souligne Philippe Bonnecarrère. Il n'y a pas d'accord entre le Sénat et le gouvernement. Il n'y a pas d'accord au niveau de la majorité sénatoriale. Les prochaines 48 heures vont être décisives, abonde Hervé Marseille. Le gouvernement pourrait également renvoyer la discussion des articles 3 et 4, ce dernier vise à exempter certains demandeurs d'asile d'une période de carence de 6 mois avant de travailler, à la fin de la semaine, afin de mener d'ultimes négociations avec le chef de file de la droite sénatoriale, M. Retailleau. Ouais, mais M. Retailleau, moi je le trouve pas très très ouvert au dialogue. Moi, je veux bien qu'on ouvre des négociations avec Bruno Retailleau pour essayer de trouver un accord, mais enfin bon, Bruno Retailleau qui propose un amendement de suppression, ça a le mérite d'être clair en matière de position dans le débat. Et les oppositions, ils en pensent quoi ? Bah justement, on est en train de parler de Bruno Retailleau, donc là, actuellement, le groupe Les Républicains au Sénat est opposé au gouvernement. C'est un groupe d'opposition, donc ils sont en train de complètement charcuter le texte du gouvernement, et ils vont même jusqu'à supprimer l'article 3, auquel tient, jusqu'à présent, en tout cas, le gouvernement. Dans ce contexte, la possibilité que le projet de loi, durci dans sa quasi-totalité par les amendements des LR et des centristes, soit finalement rejeté par une alliance de circonstances entre la droite et la gauche n'est pas négligeable. Bah oui. Là, ce qu'est en train de faire le Sénat, c'est qu'il est en train de se donner toutes les raisons d'avoir un 49-3 à l'Assemblée. Ce qui pourrait les arranger. Attention, hein. Le 49-3, c'est pas si dérangeant que ça pour les Républicains. Ça leur permet de se ménager une porte de sortie en n'étant pas obligé de voter un texte avec lequel ils sont d'accord. C'est ça aussi qui est pratique avec le 49-3, c'est que du coup, t'as pas à voter le texte. Tu renvoies la discussion à une motion de censure. Dans ce contexte, la possibilité que le projet de loi durci dans sa quasi-totalité par les amendements LR et les centristes soit finalement rejeté par une alliance de circonstances entre la droite et la gauche n'est pas négligeable. Ce serait quand même par principe un échec du gouvernement. Mais ce serait aussi un échec du Sénat, s'alarme le président LR de la commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet. Et oui, mais oui, à quoi sert le Sénat s'il ne réussit qu'à provoquer des 49-3 à l'Assemblée ? Finalement, ce qu'est en train de dire en fait François-Noël Buffet, et je suis assez d'accord avec lui, c'est qu'à force de faire monter les enchères, tout ce que va réussir à faire le Sénat, c'est à ne rien adopter du tout, y compris des quelques mesures qu'ils avaient réussi à faire passer en amendement. Ils sont en train de saboter leur propre travail avec leurs conneries. À mot couvert, des élus centristes et de droite pointent du doigt la démarche, jusqu'au boutiste de M. Retailleau, qui pourrait ébranler dans son sillage l'alliance entre la droite et les centristes au Sénat, et par là même fragiliser la position de son président Gérard Larcher. Ce dernier s'inquiète de débats qui mettraient en scène les divisions de sa majorité et au-delà d'une forme d'instabilité institutionnelle générée par l'absence de texte au Sénat en miroir d'une Assemblée nationale dépourvue de majorité absolue. Et ça, je trouve ça très très intéressant comme conclusion. Je trouve ça très intéressant comme conclusion de ce texte. L'idée qu'en fait, le plus emmerdé dans cette histoire-là, c'est Gérard Larcher. Parce que le Sénat, comme vient de très bien l'expliquer ce texte, cet article de Mariam Daram et Julia Pascual, pour le journal Le Monde, c'est qu'en fait, c'est un affaiblissement de la majorité au Sénat. Je rappelle que la majorité au Sénat, elle est Les Républicains, mais il y a aussi des centristes dedans. Il y a aussi les centristes qui font partie de la majorité. C'est une majorité plurielle d'un certain point de vue. Or, là, tout ce que va réussir à faire les Républicains dans ce texte, c'est à simplement durcir les relations entre les centristes et les Républicains. Donc, c'est la majorité au Sénat qui risque, elle aussi, de devenir une majorité relative. Et ça, Gérard Larcher, il n'en a pas envie, parce que l'argument central du Sénat, c'est sa centralité, justement, mais c'est aussi son équilibre et sa pertinence dans le temps avec des majorités stables. Si on a des majorités instables au Sénat, ça devient extrêmement compliqué de justifier l'existence du Sénat. Et ça, il n'en a pas envie, Gérard Larcher. Donc, les jours qui viennent, à partir d'aujourd'hui, 6 novembre, puisqu'on est en séance publique au Sénat, c'est là que tout est en train de se jouer, y compris les dissensions entre les Républicains et les centristes au Sénat. Est-ce que les LR, ils n'ont pas intérêt à faire capoter le texte pour renforcer leur posture dans l'opposition ? Ben si, justement. Si, justement, tu as raison. Tu as raison, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'être jusqu'au boutiste au Sénat, au risque d'affaiblir le Sénat, mais ça c'est leur problème, de manière à obtenir un 49-3 à l'Assemblée. Comme ça, ils sont tranquilles, ils n'ont pas à voter, et ils peuvent continuer à aller vers les électeurs en disant « Regardez, on est des opposants ». Merci Cutol. Regardez, on est des opposants, le gouvernement de Macron est un gouvernement beaucoup trop à gauche, nous on est la vraie droite, nous on est ferme sur l'immigration, ils n'ont pas voulu nos amendements, donc ils sont passés en force par 49-3, blablabla, blablabla. Ça, ce sont des arguments que les sénateurs, que les républicains, pardon, veulent pouvoir continuer à présenter. Pardon. Alors que le RN joue encore la respectabilité en allant dans le sens de Macron, mieux vaut ce texte que pas de texte. Exactement, Artus, tu as parfaitement raison. Le RN, de son côté, il joue la carte de la respectabilité en disant « Nous, on préfère avancer sur un texte, même s'il est imparfait, plutôt que de n'en avoir aucun. » On pourrait même se retrouver dans des situations absurdes où le Rassemblement National voterait le texte à l'Assemblée Nationale et pas les Républicains. 49-3, mais c'est la preuve qu'on interprète la loi comme on veut. Hein ? Ben non. Le 49-3 sont-ils pas limités ? Si, les 49-3 sont limités à une utilisation par session hors texte budgétaire. Là, ce texte-là n'est pas un texte budgétaire, et je comprendrais également qu'Elisabeth Borne n'ait pas envie d'utiliser un 49-3. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle ne veut pas avoir recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter ce texte, de manière à se ménager un joker pour plus tard, pour d'autres projets de loi. Est-ce qu'il aurait la majorité avec le RN Macron ? Oui, il aurait la majorité avec le RN. Mais ce serait quand même compliqué hein, pour Emmanuel Macron. Ce serait quand même compliqué de justifier l'adoption d'un texte avec le RN, mais pas avec les Républicains. Et à mon avis, le RN serait bien content de mettre Macron dans la panade comme ça. À mon avis, ça les arrangerait bien. Je pense que le RN, ils ont plus envie d'adopter le texte que de voter une motion de censure. Quelque part, à vouloir absolument se différencier des LREM, est-ce que LR ne serait pas en train de se saborder et forcer un peu plus la partition des électeurs entre LREM et le RN ? Je suis d'accord avec toi, Cab. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que les Républicains, ils sont en train d'arriver au bout de leur stratégie à force de trop se raidir. Fondamentalement, ils ne se présentent pas comme des rassembleurs d'un électorat divers. Improbable que le RN vote pour. Bah, si on écoute les déclarations de Marine Le Pen, le RN ferait coup double, il mettrait Macron et LR dans la panade, Macron vis-à-vis de ses électeurs de gauche, LR vis-à-vis de sa responsabilité. Exactement. Très bien dit, Leto. Je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi négocier avec Retailleau s'il peut faire voter le texte sans ? Sans quoi ? Il peut pas faire voter le texte sans 43, parce que le 43, c'est que à l'Assemblée, c'est pas au Sénat. Bruno Retailleau, il est président du groupe LR au Sénat. Elle l'a qualifié de petite loi. Ouais, Marine Le Pen a qualifié cette loi de petite loi, en disant c'est mieux que rien. Donc à mon avis, elle aussi, elle fait monter les enchères de son côté, en menaçant du coup de voter le texte. La majorité pourrait-elle pas être tentée de faire un accord à gauche pour cette loi, histoire d'envoyer un coup de semonce à LR ? Prochaine fois, soyez plus souple, sinon... Si, mais pour l'instant, je ne vois pas la majorité essayer de négocier avec la gauche. On avait vu Sacha Houlier, qui est le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, voter une tribune en faveur de la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. C'est quand le vote du texte ? Bah là, le vote du texte est d'ici la fin de la semaine au Sénat, et ensuite ça arrivera à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, on est encore au Sénat. Si la gauche avait une stratégie de pragmatisme, oui, mais c'est pas trop le genre. Ah, ça dépend de qui à gauche, hein. Les socialistes, les communistes, les écolos, ils sont susceptibles d'avoir un vote sur une loi immigration, mais pas sur celle-là. Sûrement pas sur le texte issu du Sénat. Puisqu'on a vu que le Sénat, il avait rajouté 70 amendements, plus une vingtaine d'articles en plus, pour encore plus durcir les conditions, etc. Ça, la gauche, elle ne vaudra pas là-dessus. C'est dur de dire qu'LFI est en dehors de l'arc républicain et ensuite aller négocier derrière. Non, mais c'est pour ça que j'y crois pas à la négociation avec LFI, mais avec les socialistes, les écologistes et les communistes, peut-être. Mais j'y crois pas trop. Hop là. Pardon, pardon. Il négocie avec LR et Retailleau, mais au final, s'il ne peut pas faire voter le texte tel quel avec le RN, pourquoi modifier le texte avec les amendements de LR? Parce que plus il y a de... Ah oui, c'est vrai, t'as raison d'ailleurs. Non, mais t'as raison, parce que les amendements de LR, ils sont particulièrement... ils vont dans le sens du Rassemblement National. Ça voudrait dire... Putain, ce serait ironique as fuck, mais ça voudrait dire que les Républicains à l'Assemblée Nationale sont en train de rendre un service majeur à Marine Le Pen, qui n'aura même pas à faire voter d'amendement, tellement elle est d'accord avec le texte issu du Sénat. Finalement. Le RN n'a pas de sénateur. Mais enfin si, ils en ont trois. Ce qui pose problème à la droite, c'est le manque de mesures vis-à-vis de l'OQTF. Ben, du coup, ils l'ont rajouté au Sénat. Ils ont rajouté des accélérations de procédure pour les expulsions de personnes en situation irrégulière. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est bizarre. Non, non, je suis d'accord, c'est bizarre. C'est pour ça qu'à mon avis, en ce moment, Gérard Larcher est particulièrement emmerdé. Parce que là, c'est la crédibilité du Sénat qui est en train de se jouer. Les LREM, ils y croient vraiment que LFI est hors de l'arc républicain ou c'est juste une stratégie de diabolisation? Bah, les deux sont possibles, hein. Les deux sont possibles en même temps. Ils peuvent être sincèrement convaincus que LFI n'est plus dans l'arc républicain. Il n'y a pas un arc républicain, hein. C'est chacun est son propre centre. LR s'extrémise depuis un moment quand même. Oui, mais là, sur le texte immigration, à mon avis, LR, ils vont juste réussir à offrir un cadeau à Marine Le Pen qui ne demande que ça. Passer pour la responsable qui accepte de voter une loi macronienne. Vu que l'enjeu de Marine Le Pen, c'est la crédibilité pour devenir présidente de la République en 2027, voter une loi, ce serait pas mal. Audacieux de la part de LR de tenter de doubler Le Pen par la droite. Bah ouais, justement, ils vont pas y arriver. Alors, il y a un sondage qui a été fait sur la loi immigration. On va regarder un petit peu ce qu'en dit l'opinion publique. C'est Libération qui a fait un sondage via Voice. Loi immigration, 2 points. D'après notre sondage via Voice, les Français peu rétifs au projet de l'exécutif. Visiblement, les Français seraient d'accord avec le projet du gouvernement. Selon un sondage via Voice pour Libération, une majorité de Français sont favorables au texte de Gérald Darmanin, débattu à partir de ce lundi 6 novembre au Sénat. De quoi conforter l'exécutif qui défend une vision équilibrée, censée satisfaire gauche et droite. Donc on en revient avant le Sénat. Sur le texte issu du gouvernement. Vous avez bien compris que le gouvernement a déposé un texte qu'il a défendu comme étant équilibré, avec l'article 3 dedans, que les sénateurs sont revenus dessus en grande partie en commission pour le droitiser. Mais en tout cas, sur le sondage via Voice qui a été fait sur la première mouture du texte, visiblement, l'opinion publique serait plutôt favorable. Ah merde, je ne me suis pas connecté, attendez. Attendez. Boum, boum. Ah merde, il est où le texte? Il est là. Hop, hop, hop. Alors, tac, 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 tac. Contrairement à la réforme des retraites sur l'immigration, nous avons l'opinion avec nous. Contrairement à la réforme des retraites sur l'immigration, nous avons l'opinion avec nous. Depuis plusieurs mois, au gré des multiples reports du projet de loi immigration, qui finit par être ce lundi et pour toute la semaine au menu des sénateurs, ministres et responsables de la majorité le martèlent sur tous les tons dans leur rencontre avec la presse. Manière de préparer aussi les justifications qui ne manqueront pas d'être faites si, faute de majorité en décembre à l'Assemblée nationale, le gouvernement décidait d'utiliser une nouvelle fois l'article 49.3 de la Constitution pour passer en force. Et oui, ce serait une grande différence avec la réforme des retraites. Effectivement, j'avais complètement zappé ça, mais la réforme des retraites a été passée par 49.3 alors que l'opinion publique était majoritairement hostile au texte. Alors que là, ce que commence à préparer les esprits le gouvernement, c'est de dire attention! Cette fois-ci, l'opinion, elle est plutôt d'accord avec le texte. Donc si on utilise l'article 49.3, c'est pas antidémocratique. C'est pour aller dans le sens de l'opinion. L'enquête réalisée par Via Voice pour Libération donne plutôt raison aux macronistes. Lorsque l'on teste les principales mesures contenues dans le texte, porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, une majorité se dessine parmi les personnes interrogées par l'Institut. Élargir les conditions de retrait d'un titre de séjour lorsqu'est constaté un manquement aux principes de la République, comme on le réclame à droite, c'est une bonne idée, selon 72% des sondés, contre 14% pour qui il s'agit d'une mauvaise idée. La régularisation des travailleurs de métiers en tension actuellement en situation irrégulière, à laquelle on tient dans la majorité, est soutenue par une partie de la gauche. Une bonne idée aussi pour 56% des personnes interrogées par Libération. Même soutien pour le remplacement de l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence plus restrictive. Longue revendication de la droite et de l'extrême droite. 61% des sondés soutiennent la mesure de la suppression de l'AME et son remplacement par une aide médicale d'urgence. 61%. Ou encore un changement de règle de l'asile pour permettre aux demandeurs d'obtenir une autorisation de travail plus tôt que ce n'est le cas actuellement, pour à 50% contre à 33%. Intéressant. Bah regardez, on a là. Pour chacune des mesures suivantes, que pourrait contenir le futur projet de loi immigration présenté par le gouvernement, diriez-vous qu'il s'agit d'une très bonne idée, assez bonne idée, non-réponse, assez mauvaise idée, très mauvaise idée? Élargir les conditions de retrait du titre de séjour lorsqu'il est constaté un manquement au principe de la République, 48% plus 24%, on est effectivement avec une grosse majorité de pour. Remplacer l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence, pareil, une majorité de pour. Régulariser les travailleurs des métiers en tension, c'est-à-dire des personnes qui travaillent dans les secteurs économiques en manque de personnel, une majorité faible, mais une majorité quand même de pour. Permettre aux demandeurs d'asile de demander une autorisation au travail avant les 6 mois d'attente actuellement nécessaires, là c'est plus mesuré. Réduire le nombre de recours contre les décisions d'expulsion, et là c'est très mesuré, on est à 50-50 quasiment. Donc dans l'équilibre, je mets des guillemets, dans l'équilibre du texte, visiblement l'opinion publique est plutôt du côté de la droite que du côté de la gauche. Un constat révélateur des ambivalences françaises qui semble prendre racine dans le doute d'une opinion travaillée par son niveau de vie et d'évolution, méfiante non pas par principe, mais demandeuse de régulation, le tout dans un contexte de faible familiarité au sujet. Analyse Adrien Roche, responsable des études politiques à Via Voice. Je suis d'accord avec lui. Il y a une faible familiarité avec le sujet de l'immigration, et pas un sujet avec lequel les Français sont très familiers, notamment sur les procédures. Si vous demandez aux Français c'est quoi les procédures pour demander l'asile, c'est quoi les procédures pour avoir un titre de séjour, un droit au travail, etc., personne n'en sait trop rien. Car loin de l'image d'une population française fermée sur elle-même et inquiète d'un grand remplacement raciste fantasmé par l'extrême droite et même d'une partie de la droite traditionnelle, cette étude révèle des citoyens qui se disent surtout mal informés sur la question de l'immigration en France. 59% des Français interrogés estiment qu'ils sont mal informés. Surtout, ils ne sont pas dupes de l'instrumentalisation par le personnel politique d'un tel sujet. 70% des interrogés sont d'accord avec cette affirmation. Et ils sont plus des deux tiers à juger qu'on ne parle pas assez des personnes immigrées qui s'intègrent et réussissent dans la société. C'est intéressant ça. Une opinion publique qui se déclare d'elle-même pas assez informée et qui n'est pas dupe des manipulations politiques sur ce sujet. Selon cette étude, la jambe humaine semble ainsi plus forte que celle qui voudrait qu'on renvoie les étrangers dehors. 57% des personnes interrogées estiment que les Français d'origine immigrée sont des Français comme les autres. On n'est pas loin des deux tiers des Français qui considèrent qu'un immigré, c'est un Français comme un autre. Hop. Et que l'immigration fait partie de l'histoire de l'identité de la France. Plus de la moitié des Français trouvent qu'on débat trop de l'immigration au détriment d'autres sujets. Une courte majorité, 45% et contre 41%, est même d'accord pour affirmer que l'immigration est un enrichissement culturel. Une performance tant les discours de fermeture, voire la xénophobie, ont gagné une grande partie des médias et des forces politiques de ces dernières décennies. C'est intéressant parce que du coup, c'est vachement plus mesuré par rapport à ce qu'on lit ici, tu vois. On a l'impression que les Français sont d'accord pour des gros durcissements vis-à-vis de la politique migratoire, mais qu'en réalité, quand tu rentres dans le détail et quand on discute avec eux, ils te disent qu'en fait, ils sont beaucoup moins fermés d'esprit et racistes que le durcissement qu'on constate dans les médias. Il y a une bonne résistance, ou résilience, appelez ça comme vous voulez, de la part de l'opinion publique vis-à-vis du discours décliniste permanent. Sondage, l'information sur l'immigration. Vous, personnellement, avez-vous l'impression d'être très bien informé, plutôt bien informé, assez mal informé ou très mal informé sur la question de l'immigration en France? On est sur un 59% de mal informé, près de 2 Français sur 3. Les positions sont difficilement lisibles et parfois contradictoires, nuance tout de même Adrien Broche de Via Voice, pointant les ambivalences d'une société française qui ne voit pas l'immigration comme une opportunité du point de vue économique, une solution au déclin démographique ou un phénomène positif pour la France. Une majorité des personnes interrogées se dit désormais défavorable au droit de vote des étrangers aux élections locales. Un regard sévère, mais une absence d'opposition de principe, en conclut Adrien Broche. Ok, je vois l'analyse qu'en propose Adrien Broche, c'est un peu ça l'ambivalence française. Un regard sévère sur les immigrés, mais une absence d'opposition de principe. Tout le paradoxe est là. Ces tiraillements, on les retrouve d'ailleurs sur les questions de régularisation. Si les personnes interrogées par Via Voice sont largement favorables à la position du gouvernement contenue dans le projet de loi Darmanin, ils sont divisés sur un éventuel retrait de cette disposition si cela permet de faire adopter le texte grâce aux voix de la droite. 38% sont contre, 37% sont pour et 25% ne se prononcent pas. Ah oui, donc c'est très très équilibré en fait. De quoi offrir à l'exécutif ce qu'il faut d'arguments dans les débats qui viennent pour expliquer à la droite de l'hémicycle comme à la gauche qu'ils ont une majorité de Français avec eux et qu'ils proposent un texte équilibré. Et tant pis pour les critiques importantes sur l'instrumentalisation du sujet dans le débat public. Effectivement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le gouvernement aura beau jeu de défendre l'équilibre du texte pour justifier son hypothétique adoption par 49.3. Intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le coup, la représentation nationale représente bien les Français divisés sur le sujet, oui. Oui, là on a bien la tripolarisation du paysage politique sur la question migratoire, elle est assez claire, c'est vrai. Le gouvernement et sa majorité relative qui défend un texte équilibré, la droite qui veut droitiser au maximum le texte et la gauche qui dénonce ce texte comme étant fondamentalement xénophobe. Je pige pas trop comment s'insère le référendum dont parle Macron qui est censé porter sur l'immigration lui aussi. On en parlera juste après. Ça veut dire que les Français veulent pas trop en parler et se focusent sur autre chose. Non, ça veut dire que les Français se considèrent eux-mêmes mal informés sur le sujet et que quand on leur demande d'exprimer des positions, ils sont plutôt d'accord avec l'équilibre du gouvernement et ils sont plus humanistes que ce qu'on pourrait imaginer avec le discours ambiant dans les médias. Est-ce que la gauche peut soutenir ce texte sans se dédire ? Moi, je ne pense pas. Je pense que la gauche à l'Assemblée nationale va dénoncer ce texte. Le seul article qui les intéresse, c'est l'article 3. Mais toutes les autres mesures qui vont être adoptées par les Républicains, voire le Rassemblement national, ça, la gauche n'en voudra pas. Et que donc, au bout du bout du bout du bout, la gauche ne votera pas ce texte. Est-ce que ça va vraiment se faire, ce référendum ? Non, probablement pas. La première partie des questions est formulée de manière à répondre d'une manière pro-immigration. Pour chacune des mesures suivantes, que pourrait contenir le futur projet de loi sur l'immigration, diriez-vous qu'il s'agit d'une bonne idée ou d'une mauvaise idée? Élargir les conditions de retrait du titre de séjour lorsqu'est constaté un manquement au principe de la République? Je ne vois pas que ce soit pro-immigration. Remplacer l'aide médicale d'État par une aide médicale d'urgence? Régulariser les travailleurs et les métiers en tension? Non? Si? Je sais pas. Non, moi, je ne suis pas trop d'accord. Après, les médias sont clairement orientés, ils le font dire ce qu'ils veulent au peuple français. Bah, la preuve que non. La preuve que non. Si la majorité des médias est orientée et que le discours dominant dans le paysage politique et dans le paysage médiatique, c'est un discours xénophobe, les Français répondent qu'ils ne le sont pas. Donc en fait, ils n'arrivent pas à faire changer d'avis les Français. Pourquoi le référendum ne se fera sans doute pas ? Parce qu'avant qu'il y ait un référendum sur l'immigration, il faudrait un élargissement de l'article 11 de la Constitution qui n'est pas encore le cas. Donc il faudrait d'abord changer la Constitution. Or là, le texte de loi dont on discute, il ne va pas être passé par référendum parce qu'il est déjà devant le Sénat. Donc là, on est sur une loi simple qui ne sera pas soumise à référendum. Enfin, je pense pas. Je pense pas. On peut continuer. Attends. Hop, j'ai un autre article justement sur le sujet que je voulais lire avec vous. Précisément sur ce sujet, Emmanuel Macron propose de changer les règles du référendum. Dans un courrier envoyé ce dimanche 5 novembre au chef de parti, le président s'est montré ouvert à une modification de l'article 11 de la Constitution pour proposer en français des consultations sur les questions sociétales comme la fin de vie ou l'immigration. Des nouvelles règles pour le référendum ? Emmanuel Macron a écrit dimanche 5 novembre aux différents chefs de partis politiques pour les convier à une nouvelle réunion à Saint-Denis, après celle du 31 août qu'on avait largement discuté sur cette chaîne. L'invitation est cette fois pour le 17 novembre et leur propose notamment d'élargir le champ de la consultation des Français aux questions de société selon son invitation que s'est procurée Libération et révélée par le Figaro. Nos réflexions sur les pistes d'évolution du référendum devront également être poursuivies écrit dans un premier temps le chef de l'État, avant de préciser sa volonté de réviser l'article 11 de la Constitution. Deux points. Il s'agira à la fois de saisir les projets de loi relevant des questions dites sociétales, comme la fin de vie parfois évoquée, mais également les réformes plus larges, touchant plusieurs aspects intriqués entre eux, comme c'est le cas des questions migratoires qui révèlent de sujets régaliens, économiques, sociaux ou même diplomatiques. Dans une des annexes transmises au chef de parti et que Libération s'est également procuré, l'Élysée rappelle que cet instrument démocratique n'est plus utilisé depuis plus de 20 ans. Effectivement, l'article 11 n'a pas été utilisé depuis plus d'un temps. L'article 11, je rappelle, c'est un article qui permet d'adopter certaines lois par référendum. Nos concitoyens souhaitent aujourd'hui être mieux associés aux grands choix de la nation, peut-on lire. Un RIP simplifié ? Le RIP, je rappelle, c'est le référendum d'initiative partagée. Rappelez-vous, c'est le référendum qui nécessite une pétition avec plus de 4,5 millions de signatures, si je me souviens bien, pour pouvoir déclencher un référendum. On a eu un référendum sur les trottinettes il y a peu de temps. Non, ça, c'était pas un référendum, c'était une consultation locale. Sur les trottinettes, c'était uniquement à Paris. Dernier référendum avec l'article 11, c'est le quinquennat. Dernier référendum, article 11. Bah non, les derniers référendums, c'était 2005. Et c'était pas... Est-ce que c'était sur une loi? Bah c'est le traité constitutionnel européen. Si, techniquement, c'était sur une loi. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est 2005. Emmanuel Macron propose également d'abaisser à 1 million d'électeurs contre près de 5 millions actuellement le seuil pour permettre l'organisation d'un référendum d'initiative partagée. Instrument créé lors de la révision constitutionnelle de 2008 de Nicolas Sarkozy, mais qui n'a jamais pu être utilisé compte tenu des verrous existants rendant toute consultation en réalité impossible. Le chef de l'État suggère ainsi d'abaisser le nombre de parlementaires requis, 93 contre 185, et de donner aussi aux citoyens la possibilité de prendre l'initiative de ce RIP, alors qu'aujourd'hui seuls les parlementaires peuvent lancer la procédure. Intéressant ça. Intéressant cette proposition d'Emmanuel Macron. Baisser le nombre de signatures requises de 5 millions à 1 million et baisser le nombre de parlementaires requis pour déclencher un référendum. 93, ça veut dire que la gauche toute seule, si elle réussit à trouver 1 million d'électeurs, 1 million d'électeurs et 93 députés, ça peut suffire. Donner aussi aux citoyens la possibilité de prendre l'initiative de ce RIP. En revanche, il ne s'agirait pas de transformer cette procédure en un court-circuit ou une voie d'appel des délibérations parlementaires. Céder à cette tentation, c'est opposer le Parlement et le peuple avec le risque, par le jeu d'une telle concurrence des légitimités, d'une confusion préjudiciable à toute démocratie, explique l'Élysée dans cette même annexe. Donc ils vont mettre des garde-fous du coup. Par exemple, un RIP ne pourrait pas concerner une loi promulguée depuis au moins 5 ans, ni porter sur le même thème qu'un projet en cours d'examen au Parlement ou définitivement adopté mais non encore promulgué. Ce délai de 5 ans serait aussi valable pour le Parlement qui ne pourrait revenir sur une décision tranchée par le peuple via un référendum. Ah, intéressant. Nouvelle règle dans la méta du jeu. Il propose de mettre un délai de 5 ans pour empêcher le RIP d'être une voie de recours pour le gouvernement comme pour le peuple. Les retraites. Oui, les retraites, oui, bien vu. Non, mais bien vu, effectivement. Il faudrait attendre 5 ans. Autre sujet que le chef d'État veut aborder avec les chefs de parti le 17 novembre à Saint-Denis, la situation internationale, soit le conflit entre Israël et le Hamas après les attaques terroristes du 7 octobre. Les différents chefs de parti avaient déjà évoqué avec le président la situation au Proche-Orient le 12 octobre. Attendez, j'ai fait tomber un truc. Eh ben c'est pas grave, il tombera pas plus bas. Autre sujet que le chef de l'État, donc ça je viens de le dire. Dans le sillage de la dernière rencontre, le chef de l'État a aussi confié une mission relative à la décentralisation à l'ancien ministre et député Éric Woerth. L'élu de l'Oise et ancien président de la commission des finances à l'Assemblée n'est pourtant pas réputé pour être le meilleur connaisseur des questions territoriales. C'est vrai que ça qu'Éric Woerth, pour le coup, il est connu pour être un enfin, ancien président de la commission des finances, quoi. Mais il n'est pas très identifié territoire. C'est un peu curieux de lui avoir confié à lui, mais bon, pourquoi pas, admettons. En revanche, il ne perd jamais une occasion de s'en prendre aux dépenses des collectivités locales et à la question de leurs compétences. La feuille de route tracée par l'Élysée pour lui est simplifier, clarifier, rendre plus efficace et restaurer la confiance de nos concitoyens. En clair, comment faire des économies? Oui. Exactement. Dernier point de réflexion mis en avant par le chef de l'État dans sa lettre, le cas de la Corse, la Nouvelle-Calédonie et plus globalement les Outre-mer. Au-delà de ces territoires, des évolutions plus générales pourraient apparaître souhaitable dans une logique du plus grande différenciation, écrit aussi Macron dans ce courrier. Invité, la secrétaire nationale d'Europe des écologistes, Marine Tondelier, a déploré sur Twitter que, je cite, « les questions environnementales et de justice sociale ne soient toujours pas à l'ordre du jour ». C'est assez hallucinant en vrai, a-t-elle fustigé, pointant la déconnexion d'Emmanuel Macron. Le coordinateur des Insoumis, Manuel Bompard, avait déjà dit qu'il ne se rendrait probablement pas à une prochaine invitation, dénonçant une comédie. « On est toujours disponible pour faire des propositions », avait-il dit, « mais si c'est pour parler pendant des heures et des heures et qu'il n'en ressorte rien, je ne vois pas l'intérêt d'y retourner. » Leur homologue du Parti Socialiste, Olivier Faure, a lui aussi décliné l'invitation lundi 6 novembre, dénonçant une mascarade. « Quand je vois l'ordre du jour venir valider le deal d'Emmanuel Macron veut passer avec la droite et l'extrême droite, pardon, mais je ne suis pas là pour tenir la chandelle. » Donc, ce qui va se passer, c'est que cette invitation, il n'y aura pas la gauche. C'est comme ça que ça va finir. Ah, j'ai des fourmis dans la jambe, c'est horrible, ça pique très très fort. Bonne idée d'ouvrir le référendum, mais il faudrait qu'il soit possible pour tous les sujets, pour être sérieux. Bah, y a un débat pour savoir si les questions sociétales peuvent être réglées par référendum ou pas. La question sur la fin de vie, la question de l'immigration, tu vois, par exemple. Je prends l'exemple de l'immigration parce que c'est une demande des Républicains et du Rassemblement National. Tant là, à l'horizontale, ça marche de fou. Ah, putain, ça fait mal, hein. La peine de mort, ouais, la peine de mort. Mets des morceaux de sucre à côté de ta chaise, elles sortiront de tes jambes. Putain, c'est vrai que ça marche bien de tendre la jambe. Ça picote moins, là, déjà. C'est encore un peu vénère, mais ça picote moins. Toute façon, les référendums, on en a très régulièrement, mais ça se concrétise jamais. On n'en a pas très régulièrement des référendums. La dernière fois, c'était il y a un quart de siècle. C'était il y a 20 ans. Pas un quart de siècle, 20 ans. Lève-toi, ça rétablira la circulation. Ouais, t'as raison. Putain. Oh, la vache! Pardon, excusez-moi. Ah la vache, les fourmis dans les jambes qui piquent là dans le pied, c'est horrible. Chirac, le dernier référendum. Ouais, Jacques Chirac était président de la République quand on a voté la dernière fois par référendum. C'était en 2005. Début de flébite. Pour le référendum, c'est un papier oui et un papier non ou un autre format. Pour l'instant, c'est un papier oui et un papier non. Pour avaliser... Hop, pardon. Voilà. Horrible son. Oui, pardon. Non. Pour l'instant, un référendum, c'est oui ou non à une décision, à l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un traité international. Donc ouais, non, intéressant. Donc du coup, cette prochaine réunion de Saint-Denis, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie? Enfin, une bonne stratégie. Est-ce que vous trouvez que c'est intelligent et intéressant politiquement d'avoir des réunions entre le président de la République et les chefs de parti en dehors du Parlement pour discuter d'un certain nombre de sujets? C'est déjà la question qu'on s'était posée en août dernier. À l'époque, il y avait tous les chefs de parti qui avaient accepté de venir, de se rendre à cette réunion pour discuter. En vrai, oui. Oui, c'est bien. Il y a un Parlement, en fait. Oui, non. J'y crois pas, ça reste formel, c'est tout. Oui, ça dépend ce qu'on en fait. Oui, sauf quand la gauche refuse, je trouve ça dommage. Absolument pas, ça renforce l'idée de personnelle puissante. Bah, pour le coup, oui, c'est vrai que c'est très présidentiel, jupitérien, hein, le fait de rassembler autour du président de la République les chefs de parti. Ça fait, y a un côté parlementarisme à côté du Parlement. Et ça explique du coup pourquoi est-ce que la gauche ne veut pas y retourner, quoi. Qui disent, bah non, désolé, il y a un Parlement, les gens qui sont au Parlement, ils sont là pour être élus. Ça sert à rien de faire passer des textes en 49.3, y compris des budgets, si c'est pour ensuite nous inviter et nous demander ce qu'on en pense. Mais, Si Jean-Luc Mélenchon devient président de la République, est-ce qu'il organisera des réunions avec les chefs de parti pour discuter avec eux? Ou est-ce qu'il renverra tôt vers le Parlement? C'est ça la question. Pour une municipalité, ça passe mieux. De quoi? C'est quoi le rapport avec les municipales? Pas avec le FN dans l'idée. Ouais, je suis d'accord. J'imagine pas Jean-Luc Mélenchon inviter le Rassemblement national à papoter. C'est un contournement des institutions actuelles que je ne trouve pas si dysfonctionnel. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Supermeux. Je vois ce que tu veux dire. Fondamentalement, on est dans un système parlementaire. C'est juste Macron qui n'arrive pas à s'y faire, mais techniquement, ce qui se passe aujourd'hui en France avec une majorité relative, c'est ce qui se passe dans la plupart des pays d'Europe. Ça s'appelle trouver des compromis. Non, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'imagine pas Jean-Luc Mélenchon inviter qui que ce soit à papoter une fois qu'il a le pouvoir. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Après, il y a toujours eu hein, des consultations des chefs de parti, mais en général, c'est les uns après les autres à l'Élysée. Là, c'est vraiment l'innovation d'Emmanuel Macron de proposer une réunion à Saint-Denis avec tous les chefs de parti ensemble. Peut-être qu'il va instaurer ça dans la réforme des institutions. Tu veux dire donner un cadre constitutionnel aux réunions des chefs de parti? Comment trouver un compromis si on ne peut pas discuter avant? Mais la discussion, elle se fait au Parlement, hein. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de discussion. Par contre, si tu fais un 49-3, c'est sûr que tu mets fin à la discussion, oui. Pourquoi Saint-Denis? Je sais pas, parce qu'il y a le couvent des machins là. Que du coup, il y a de la place. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de se mettre à Saint-Denis. C'est un lieu neutre. Saint-Denis, c'est en dehors de Paris, c'est pas près du Parlement, c'est pas près de l'Élysée. C'est un lieu neutre. Qu'en plus, c'est lien et qu'en lien avec l'histoire de France. Saint-Denis, il y a la cathédrale et c'est à gauche surtout. Ah bah Saint-Denis, c'est vrai que c'est neutre politiquement parce que c'est un territoire de gauche, en Seine-Saint-Denis. Et en même temps, c'est la basilique, la nécropole des rois, donc la droite et l'extrême droite, ils sont assez attachés. Ça aide. La discussion, elle se fait surtout entre le chef de parti et le chef de l'État. Bah oui. Bah oui. C'est le principe de ces réunions de Saint-Denis, effectivement. Sa passion, c'est vraiment d'organiser une réunion et d'en faire qu'à sa tête quand même. Bah la preuve que non. Il propose des évolutions législatives et constitutionnelles. C'est fou qu'on oublie si facilement la racine de parlement. Eh ouais, le parlement, ça sert à parlementer. Hop. Autre article que j'ai sélectionné. Le procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la Cour de justice de la République pour le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. On est dans une situation pas banale, les amis. On a un ministre de la Justice devant la justice. On va voir un petit peu ce qui lui est reproché, comment ça s'organise, etc. C'est quand même tout à fait particulier. Pour Éric Dupond-Moretti, un procès à haut risque politique. Un article de Loris Boischeau et de Paul Gonzalez pour Le Figaro. Décryptage. Le garde des Sceaux comparaît devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Il joue son avenir place Vendôme. La place Vendôme, c'est là où siège le ministère de la Justice, place Vendôme à Paris. Au bord du précipice judiciaire, alors qu'il a enfin pris la mesure de la place Vendôme et semble avoir endossé le costume de garde des Sceaux. À partir de lundi, aujourd'hui donc, Éric Dupond-Moretti, 62 ans, comparaît durant 8 jours devant la Cour de justice de la République pour une affaire qui a commencé le jour même de sa nomination à la surprise générale comme ministre de la Justice en juillet 2020. C'est noué à l'automne de cette même année quand les syndicats ont porté plainte et s'est figé le 28 juillet dernier quand la Cour de cassation confirmait son renvoi devant la justice pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Une première pour un ministre en exercice, à plus forte raison pour celui de la justice, que l'intéressé tente de minimiser devant ses interlocuteurs. Ce procès ne doit pas prendre toute la place. Il n'empêche qu'il y joue son avenir politique. Place Vendôme, ministère de la Justice, l'ogre des prétoires, qui était le surnom d'Éric Dupond-Moretti lorsqu'il était avocat pénaliste, le cauchemar des magistrats, l'avocat des voyous, est entré comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. À peine arrivé, il conspue l'entre-soi des magistrats, nomme une avocate à la tête de la prestigieuse École nationale de la magistrature, prend la relève de Nicole Belloubet contre les magistrats auxquels il avait eu affaire en tant qu'avocat, et finit par s'embrouiller dans une étrange communication sur les réseaux sociaux. Le tout déboucha sur deux plaintes et un signalement des principaux syndicats de magistrats. Ce sont les 5 premiers mois de catcheur qu'Éric Dupond-Moretti paye à rebours. Alors que ses 3 ans à la tête d'un des ministères les plus ingrats du gouvernement l'ont assagi, grâce à quelques décrets de déport, plusieurs succès et quelques belles punchlines qui lui confèrent désormais une image de bon père de famille, juste mais sévère. Encore ces derniers jours quand il a qualifié de petit guignol les auteurs de, les auteurs de fausses alertes à la bombe. Si, condamné, il quittait demain ses fonctions, on ne pourrait pas lui enlever d'avoir, entre 2017 et 2024, fait passer le budget de la justice de 6,9 milliards d'euros à plus de 10 milliards en 2024. Dans ses efforts budgétaires que le garde des Sceaux exprime et rappelle qu'il est allé les chercher avec les dents. Il y a aussi les hausses de rémunération de 8% qui atteindront 5,1 milliards d'euros pour les agents du ministère, sans compter les évolutions catégorielles pour l'administration pénitentiaire, qui n'est plus ce chaudron bouillonnant faisant vaciller tous les ministres de la justice. C'est intéressant parce que cet article du Figaro semble dresser un bilan très positif d'Éric Dupond-Moretti à la tête du ministère de la justice en mettant en avant les moyens supplémentaires qu'il a obtenus pour la justice. On est passé de 7 à 10 milliards d'euros de budget, il y a des augmentations de salaire et de rémunération pour les agents du ministère. Il s'est assagi, etc., etc. Intéressant. Au passage, Éric Dupond-Moretti a appris à ne plus dire prisonnier pour détenu. Un glissement sémantique à l'image de celui politique qu'il a opéré progressivement vers la fermeté, collant ainsi aux attentes de l'opinion publique, même s'il reste la bête noire de Marine Le Pen, toujours prompte à présenter cet adversaire résolu en militant d'extrême gauche, et des insoumis agacés qu'il les accuse de se rapprocher des discours antisémites et de vouloir foutre en l'air la République. C'est vraiment un article hagiographique d'Éric Dupond-Moretti, qui s'embrouille avec Marine Le Pen et avec les insoumis. Le Figaro qui se fait l'avocat du diable de l'avocat du diable. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Depuis quelques mois, Éric Dupond-Moretti inaugure moult places de prison dont la construction a souvent été engagée il y a 2 quinquennats et promet des centres éducatifs fermés à foison pour les mineurs délinquants. Bénéficiant de l'indéfectible soutien du président de la République, il résout toutes les crises de moyens auxquelles il est confronté. Voilà 1500 magistrats en plus d'ici à la fin du quinquennat, 1800 greffiers supplémentaires et plus de 2000 assistants de justice qui d'ici à 2027 seront venus épauler le travail des magistrats. L'hôtel de la place Vendôme a fait sa place par le biais de circulaires de politique pénale bien trempées. Au printemps, il recommande aux procureurs la plus grande sévérité face aux débordements lors des manifestations contre la réforme des retraites. À l'été, le voilà qui exige une fermeté maximale contre les mineurs qui participent aux émeutes. À la rentrée, il soutient son collègue de l'éducation nationale Gabriel Attal dans la lutte contre l'abaya. Et 3 jours après les massacres en Israël, c'est contre l'antisémitisme qu'il exige une lutte sans merci. Bref, Éric Dupond-Moretti fait feu de tout bois sur tous les dossiers. Hop. Au Parlement, Éric Dupond-Moretti a appris à manœuvrer. Il a surpris son monde en parvenant à s'accorder avec la droite. Avec le niçois Éric Ciotti, président Les Républicains, il a partagé en privé le goût de la chasse et l'amour de la Côte d'Azur. À l'Assemblée nationale, il est parvenu à obtenir des voix d'une large partie de ses troupes et de celles du RN pour faire voter en juillet une nouvelle augmentation des moyens de la justice. Il n'a pas réussi à rééditer l'opération jeudi dernier en commission lors de l'adoption des crédits du budget 2024, mais l'essentiel est sauvé. Il voit s'éloigner le portrait dépeint de sa nomination par certains responsables de droite qui dénonçaient sa mollesse en le comparant à Christiane Taubira. Tout n'est pas parfait, mais je n'ai jamais senti en lui quelqu'un de laxiste, avance François-Noël Buffet, le président LR de la commission des lois du Sénat. Jusque dans sa majorité, le regard porté sur lui a changé. Après de premières interventions jugées décevantes à l'Assemblée et un baptême du feu électoral raté dans les Hauts-de-France en 2021, le chef de l'État, son épouse Brigitte Macron et les troupes macronistes ont apprécié ses multiples déplacements dans le pays pendant les campagnes de 2022. Ils le savent. Dans le gouvernement peuplé d'inconnus du grand public, ce natif de Maubeuge, rescapé de la société civile lors du mini-remaniement de juillet, fait partie du club restreint des ministres les plus connus. C'est vrai ça ? les ministres les plus connus de l'opinion publique, il n'y en a pas des masses, hein. Il y a Éric Dupond-Moretti, il y a Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Gabriel Attal. Les autres, ouais, peut-être un peu Clément Beaune pour les transports et encore. C'est vrai qu'il a au moins réussi ça. Il s'est mouillé, salue le député Guillaume Gasbarian, cadre du groupe Renaissance. Il savait faire dans les tribunaux, il sait aujourd'hui faire en politique. S'il sort sans condamnation de ce procès, où il risque 50 prisons et un demi-million d'euros d'amende et de peine d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer des fonctions publiques, l'homme à la double nationalité franco-italienne entend se projeter dans la campagne pour les européennes du 9 juin prochain, promet son entourage. Ah! Donc Éric Dupond-Moretti pourrait être candidat aux élections européennes. Ça dépendra du jugement de la Cour de justice de la République. Elisabeth Borne, t'as raison. Olivier Véran, Olivier Dussopt. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'avais oublié Véran et Dussopt. T'as raison, t'as raison. En parallèle de la lutte contre les violences faites aux femmes, de mesures pour la justice restaurative et de la réforme des institutions, incluant l'inscription de l'IVG dans la Constitution, trois chantiers qu'il souhaite engager. Épreuve judiciaire ultra sensible. Pendant ces années passées au pouvoir en lien direct avec ses collègues Gérald Darmanin et Gabriel Attal, dont il ne cherche pas à contester l'omniprésence, Éric Dupond-Moretti a appris à se méfier d'Elisabeth Borne. La première ministre a beau lui avoir redit publiquement sa confiance cet été, il a peu goûté qu'elle réaffirme le 8 octobre sur BFM TV la règle claire qui consiste à démissionner du gouvernement en cas de condamnation. Bah oui, mais en même temps, t'es gentil, Éric. Évidemment que la première ministre, elle réclame la démission d'un ministre condamné. Déjà qu'un ministre mis en examen, c'est déjà un peu gênant. Voire même carrément gênant, mais alors faut pas en vouloir à un Premier ministre qui rappelle qu'un ministre condamné doit démissionner. C'est le chef du gouvernement qui a aussi jugé. Oups là, pardon. C'est la chef du gouvernement qui a aussi jugé inapproprié les bras d'honneur commis en mars par le ministre de l'Assemblée nationale, Éric Dupond-Moretti, avait alors répliqué au patron des députés LR, Olivier Marleix, qui avait rappelé sa mise en examen. Rappelez-vous, il avait fait des doigts d'honneur dans l'hémicycle. Preuve que cette épreuve judiciaire reste ultra sensible pour lui, il ne lui a pas échappé que sur les 12 parlementaires qui siègent à la Cour de justice de la République, aux côtés de trois juges professionnels, la plupart viennent des oppositions, dont l'insoumise Danielle Obono et le lepéniste Bruno Bilde. Le ministre est serein et a hâte de s'expliquer pour clamer son innocence, avance son entourage. Ces derniers jours, il a bataillé avec succès en coulisses pour qu'aucune de ses attributions ministérielles ne soit transférée à Matignon le temps du procès. Cela n'a jamais entravé mon travail de ministre, a-t-il fait valoir le 8 octobre sur France Info, en ajoutant « La seule chose qui compte pour moi, c'est que le ministère continue pendant cette période. Tant pis si, hors micro, des parlementaires de son camp s'étonnent de cette situation inédite, ou qu'un de ses collègues du gouvernement catégorique juge qu'il sera empêché d'agir. » Voilà donc pour cet article qui dresse le portrait d'un Éric Dupond-Moretti combatif à la tête de son ministère et combatif dans l'épreuve qu'il commence à engager aujourd'hui, celle du procès devant la Cour de justice de la République. J'avais un article d'ailleurs. Voilà. C'est ça. Un article qui date d'il y a 10 jours. Un peu plus même, sur justement ce qui lui est reproché. Un vrai personnage de roman. Ah bah ça c'est romanesque, hein, Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, ce que lui reproche la commission d'instruction de la Cour de justice de la République. Quelle est la composition de la CJR? La CJR, elle est composée de trois magistrats professionnels de la Cour de cassation et de 12 parlementaires, issus au prorata des différents groupes. Alors, Le Monde a pu consulter l'arrêt de renvoi de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République qui détaille les charges qui pèsent contre l'actuel ministre de la Justice. Celui-ci doit comparaître du 6 au 17 novembre pour des prises illégales d'intérêt. Alors on va voir un petit peu de quoi on parle, qu'est-ce qu'il y a dans ce document qui est l'arrêt de renvoi devant le tribunal pris par le juge d'instruction. Le moment est historique. Pour la première fois, un ministre en exercice va être jugé du 6 au 17 novembre par la Cour de justice de la République, et qui plus est, un ministre de la Justice garde des sceaux. L'épreuve est assurément redoutable pour Éric Dupond-Moretti, mis en examen pour prise illégale d'intérêt le 16 juillet 2021 et renvoyé devant la juridiction le 3 octobre 2022 par la commission d'instruction de la CJR en chambre du Conseil, c'est-à-dire à huis clos. Le ministre avait aussitôt déposé 8 pourvois en cassation, finalement rejeté le 28 juillet. Donc c'est pour ça que c'est depuis le 28 juillet qu'on sait qu'il va être renvoyé, parce qu'il avait fait des pourvois en cassation pour essayer d'empêcher d'être renvoyé devant la justice, mais ces pourvois ont été déboutés. Il risque désormais 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende et une peine complémentaire d'inéligibilité. Le Monde a pu consulter le copieux arrêt de renvoi devant la CJR, 143 pages jusqu'ici confidentielles, qui n'est pas tendre pour le ministre et sa directrice de cabinet. La commission d'instruction est composée de 3 membres de la Cour de cassation et présidée par Jeanine Drey. Elle a entendu le 6 septembre 2022 l'avocat général Philippe Lagauche, qui a sans surprise requis le renvoi du ministre devant la Cour, puis les deux avocats du mis en examen, Christophe Ingrin et Rémi Laurin, qui ont réclamé un non-lieu. Éric Dupond-Moretti a eu la parole en dernier et la commission s'est donné un mois pour rendre son arrêt. Éric Dupond-Moretti est accusé d'avoir voulu régler ses comptes une fois ministre avec plusieurs magistrats contre qui il avait bataillé lorsqu'il était avocat. Dans deux affaires distinctes, l'affaire Levrault et celle du parquet national financier. On parle des doigts d'honneur à l'encontre des surveillants pénitentiaires et insultes avant qu'ils ne deviennent leur patron. Non, on parlait des doigts d'honneur à l'Assemblée nationale en l'occurrence. J'ai entendu dire que c'était une cabale des syndicats. Est-ce que c'est vrai? Alors, c'est effectivement l'un des arguments de défense d'Éric Dupond-Moretti qui dénonce un procès, une machination voulue et portée par des syndicats de la magistrature qui sont hostile à Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti était un avocat pénaliste. Et donc, en tant qu'avocat pénaliste, il a effectivement eu il a eu maille à partir avec des magistrats pendant toute sa carrière. Et donc, il y a une accusation qui est faite de la part d'Éric Dupond-Moretti qui voit la main des syndicats de magistrats qui, de toute façon, n'ont jamais pu l'encadrer. On va quand même, du coup, regarder ce qui est écrit précisément dans ce qui est reproché à Éric Dupond-Moretti pour comprendre un peu plus précisément et tirer le vrai du faux. L'affaire Levrault. Alors, l'affaire Levrault. Édouard Levrault a été détaché en 2016 comme juge d'instruction à Monaco pour 3 ans, d'habitude renouvelé une fois quasi automatiquement. Mais en 2019, le directeur des services judiciaires de la Principauté insiste pour que la France rapatrie son juge. Il dit à Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, que le juge se permet de laisser planer des soupçons de toutes sortes, sur toutes sortes de personnes et souhaite désormais enquêter à l'intérieur du palais. L'affaire remonte jusqu'à Emmanuel Macron, qui convient avec le prince Albert de transférer Édouard Levrault à Nice, à condition que Monaco se débarrasse de son directeur des services. En somme, on écarte un juge trop curieux. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre le dossier instruit par M. Levrault et son non-renouvellement, a expliqué à la commission d'instruction Peymann Galey-Marsban, alors directeur des services judiciaires à Paris. Un an plus tard, le juge participe le 10 juin 2020 à l'émission Pièce à conviction sur France 3, où il laisse entendre qu'on a eu sa peau parce qu'il enquêtait sur Dimitri Ribolovlev, le président russe du club de foot de l'AS Monaco, et sur Christophe Hagey, le directeur de la police judiciaire monégasque. 2 jours plus tard, Éric Dupond-Moretti dit à Monaco Matin que le reportage était indigne, truffé d'erreurs, ajoute qu'être juge d'instruction, ce n'est pas être un cow-boy, et annonce une plainte contre Édouard Levrault. Christophe Hagey, de son côté, demande que le Conseil supérieur de la magistrature soit saisi des manquements du juge et porte plainte pour violation du secret de l'instruction. Il annonce avoir maître Florent Elia et Éric Dupond-Moretti pour avocat. Nicole Belloubet demande qu'Édouard Levrault soit entendu par sa hiérarchie, mais le juge refuse de répondre, faute de comprendre le fondement juridique de cet entretien, et la DSJ envisage d'ordonner une enquête administrative sur son cas. Putain, la vache, c'est compliqué. Mais alors du coup, Éric Dupond-Moretti, c'est l'avocat de qui? Christophe Hagey demande au conseil machin. Ah, c'est le directeur de la police judiciaire monégasque. Oui, c'est ça, c'est à lui qui était reproché de farfouiller un peu trop dans les affaires du palais. Je suis largué. Ouais, moi aussi, c'est un chouïa compliqué. Or, Éric Dupond-Moretti est nommé ministre de la Justice le 6 juillet 2020 et Peymann Galey-Marsban, alors directrice des services judiciaires, attire le 31 juillet l'attention de la nouvelle directrice de cabinet du ministre, Véronique Malbec, sur le fait que le policier de Monaco qui porte plainte a élu domicile au cabinet de son avocat, Éric Dupond-Moretti. La directrice saisit toutefois l'inspection des services judiciaires d'une enquête administrative pour procéder à toute vérification utile sur la manière de servir de M. Édouard Levrault et sur sa participation à l'émission. De son côté, le juge Levrault fait un recours devant le tribunal suprême de Monaco qu'il perd. D'accord, donc en fait, Éric Dupond-Moretti, qui était avocat contre M. Levrault, une fois qu'il est devenu ministre de la Justice, il a déclenché une enquête administrative contre le juge Levrault. C'est ça qui lui est reproché, c'est d'avoir, par son pouvoir de ministre de la Justice, avoir réglé des comptes avec un juge avec qui il s'était embrouillé, en l'occurrence un juge monégasque. Ok, d'accord. La situation est néanmoins un peu compliquée pour Éric Dupond-Moretti. Et Jean Castex, le Premier ministre, à deux reprises, le 23 octobre et le 17 septembre 2020, prend les décrets qui écartent son garde des Sceaux pour toutes les affaires dont il a été avocat ou dans lesquelles il a été impliqué. C'est déjà reconnaître au minimum qu'il y a un risque de conflit d'intérêts. C'est même de reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts, c'est pas un risque. Il n'est pas dit qu'avant qu'il soit ministre, il voit déjà déclencher l'enquête. À l'époque, il était avocat, il ne pouvait pas déclencher d'enquête. Il était avocat, il n'était pas ministre. Donc, effectivement, le fait qu'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, demande à Matignon, donc au Premier ministre, de s'occuper de tous les dossiers, on appelle ça se déporter, de tous les dossiers dans lesquels il est en conflit d'intérêts, ça veut dire reconnaître qu'il y a un conflit d'intérêts. Donc effectivement, Éric Dupond-Moretti a d'ores et déjà reconnu qu'il y avait conflit d'intérêts. D'où le fait qu'il s'est déporté. L'enquête a débuté avant. Ah, l'enquête a débuté avant ? Ah, c'est possible. Mais moi, c'est pas ce que j'ai compris. J'ai compris que c'était la directrice du cabinet d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui saisit l'inspection des services judiciaires d'une enquête administrative. La situation est néanmoins un peu compliquée. Donc il reconnaît qu'il y a conflit d'intérêts. En raison de ces décrets de déport, Jean Castex lui-même, qui supplée donc son ministre, renvoie finalement le juge Levrault au disciplinaire devant le CSM. Le nouveau directeur de service judiciaire n'ose finalement pas demander de sanctions. Et le 15 septembre 2022, le CSM dit que le juge n'a commis aucun manquement. C'est la première affaire. Pendant l'enquête de la CJR, Éric Dupond-Moretti a minimisé son implication dans le dossier de Monaco. Il a certes reconnu avoir été peu de temps l'avocat du policier Christophe Hagey et le simple correspondant à Paris du conseil de Dimitri Ribolovlev. Il n'a pas insisté sur le fait qu'il était aussi l'avocat des deux sociétés de M. Ribolovlev aux îles Vierges. Ah ! D'accord. En dépit des décrets du Premier ministre, le ministre a continué à se tenir au courant de ses anciens dossiers à relever la commission. Il a rencontré 13 fois son ancien associé Antoine Vey, place Vendôme. Il a dîné avec deux hauts responsables de Monaco le 23 octobre 2020, le jour même du premier décret de déport, et déjeuné avec la procureure générale de Nîmes, saisie de la plainte contre le juge Levrault, qui lui a gentiment envoyé un rapport une semaine après le fameux décret. Donc, même s'il s'est déporté de l'affaire pour cause de conflit d'intérêts, Éric Dupond-Moretti a continué à se tenir au courant de l'affaire. Et on se demande s'il n'a pas aussi donné quelques conseils, voire quelques consignes. C'est ça le conflit d'intérêts qui lui est reproché. Ça, c'était la première affaire, celle de Monaco. Deuxième affaire, les trois magistrats du parquet national financier, le PNF. La seconde affaire est à la fois un peu plus bruyante et un peu plus compliquée. Ah ! Des juges financiers enquêtent depuis bientôt 10 ans sur des soupçons de financement illégal de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Libye. L'ancien chef de l'État a été mis en examen le 6 octobre et devrait être jugé début 2025. Or, une deuxième enquête a été ouverte et les juges d'instruction ont ordonné des écoutes sur une ligne discrètement ouverte par maître Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, où l'ancien président se faisait passer pour un certain Paul Bismuth. Ça, on se souvient, c'est l'affaire des écoutes, on se souvient très bien. Les policiers... C'est l'affaire Paul Bismuth, dans laquelle Nicolas Sarkozy a été condamné d'ailleurs en première instance. Les policiers ont eu vite le sentiment que quelqu'un avait informé les intéressés de ces écoutes et le juge d'instruction a saisi le parquet national financier qui a saisi les policiers à son tour d'une enquête pour violation présumée du secret professionnel. C'est l'enquête 306. Les policiers de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales qui travaillent régulièrement avec le PNF ont épluché les fadettes, donc les extraits des écoutes, de 20 lignes téléphoniques, dont celle de 9 avocats. Y figurent plusieurs contacts de maître Herzog, dont son ami Éric Dupond-Moretti, qui n'était pas encore ministre. Les fadettes ne sont pas des écoutes, il s'agit de relevés d'appels et des SMS entrant et sortant, de leur durée, de leur date. On ne sait rien du contenu des communications. Mais Éric Dupond-Moretti l'a très mal pris. Sur la base d'un seul appel à Thierry Herzog, on m'a espionné pendant 15 jours. On a fouillé dans mon téléphone. La commission d'instruction de la Cour de justice de la République, un peu agacée, relève en passant qu'il ne s'agit pas d'écoute et que les déclarations de M. Dupond-Moretti, pénaliste avisé, posent des questions. Sous-entendu, il savait très bien que ce n'était pas des écoutes mais des fadettes. Les policiers n'ont en tout cas pas trouvé la fuite et l'enquête 306 a été classée sans suite le 4 décembre 2019. Donc on ne sait pas qui a mis au courant Maître Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy du fait qu'ils étaient écoutés sur la ligne Paul Bismuth, mais visiblement il y a un soupçon que ce soit Éric Dupond-Moretti, qui n'était pas encore ministre à l'époque. L'avocat a néanmoins dénoncé les méthodes de barbouze des magistrats, une clique de juges qui s'autorise tout, a assuré qu'on était chez les dingues, et a porté plainte le 30 mai 2020 pour violation de l'intimité de la vie privée et du secret des correspondances et d'abus d'autorité. Or, le 6 juillet 2020, Éric Dupond-Moretti est nommé garde des Sceaux. Le 14, il se désiste de sa plainte, ce qui n'a pas empêché le parquet de Nanterre de continuer à enquêter. Juridiquement, il restait plaignant, ce qu'il savait naturellement. L'affaire a été classée sans suite en octobre 2020. Du côté de la chancellerie, Nicole Belloubet a saisi l'inspection générale de la justice le 1er juillet 2020 d'une enquête de fonctionnement pour savoir ce qui s'était passé dans l'enquête 306 du PNF. L'Union syndicale des magistrats, l'USM majoritaire chez les magistrats, s'est d'ailleurs émue d'une enquête sur l'enquête et d'un risque d'immixtion de l'inspection générale de la justice sous la tutelle du ministre dans un acte juridictionnel. Ah, intéressant. Le 7 juillet 2020, le syndicat de la magistrature a demandé une audience au nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour lui demander de suspendre la mission de l'inspection et éviter tout risque de conflit d'intérêts. Il a répondu qu'il ne lui semblait ni légitime ni opportun de suspendre la mission et a ajouté « Il est certain que dans le cadre de mon activité passée d'avocat, je suis intervenu pour défendre mes clients, dont les procédures sont, pour une infime partie d'entre elles, suivies par la direction des affaires criminelles et des grâces. » L'œil de la place Vendôme sur les dossiers, effectivement. Il s'engageait à chercher des solutions pour assurer qu'il n'ait pas connaissance de leur évolution. Compliqué. Compliqué de jurer qu'en tant que garde des Sceaux, tu ne seras pas tenu informé des actes de ton administration. Le rapport de l'inspection est tombé en septembre 2020. Elle a estimé qu'il fallait faire évoluer la gouvernance et l'organisation du parquet national financier et relever le besoin d'adaptation de l'environnement de travail du PNF. En clair, il y avait un souci de management et elle a proposé 19 mesures d'accompagnement. Mais l'inspection générale de la justice n'a visé aucun magistrat en particulier et a estimé que l'enquête 306 était parfaitement légale, et même avec même le souci de ne pas exposer excessivement la vie privée ou le secret professionnel des titulaires de lignes exploitées. Éric Dupond-Moretti, comme il s'y était engagé, a rendu public le rapport et a demandé à la DSJ de l'informer dans les meilleurs délais de suite qui pouvait lui être réservé. Ok. La directrice de cabinet du ministre, Véronique Malbec, a ainsi ordonné le 18 septembre 2020 une enquête administrative sur 3 magistrats du PNF et en a donné les noms le jour même dans un communiqué. Il s'agit d'Eliane Houlette, la procureure, Ulrika Dolnevejs et Patrick Amar, 2 des 7 magistrats chargés du dossier de l'enquête 306. C'était une première. Et là, effectivement, ça devient grave. Parce qu'on a la directrice de cabinet du ministre qui demande une enquête administrative sur des magistrats. Magistrats chargés d'une enquête à laquelle le ministre de la Justice n'était pas content qu'elle ait lieu. Jamais un ministre n'avait monté du doigt des suspects avant toute enquête. Et l'affaire a provoqué une vague d'indignation chez tous les magistrats. Ce qui me sidère à expliquer à la commission Catherine Champrenaud, alors procureur général à Paris, c'est que le 18 septembre, on jette en pâture le nom de 3 magistrats. En principe, l'enquête administrative est secrète et doit respecter la présomption d'innocence. Il y a 2 types d'inspections dans le petit monde de la magistrature. L'inspection de fonctionnement, qui fait le point sur l'organisation d'un service ou d'une juridiction et n'est jamais nominative, a rappelé à la commission Jean-François Beynel, alors le chef de l'inspection générale de la justice. C'était le cas de celle qu'avait ordonné Nicole Belloubet. Et il y a l'enquête administrative, conduite par le même service, qui vise en revanche à établir la responsabilité individuelle. En passant d'une inspection à l'autre, le ministre se mettait en mesure d'engager des poursuites disciplinaires contre les 3 magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et oui, on en est effectivement rendu là, et c'est ça qui est reproché aujourd'hui par le parquet qui a requis le renvoi du ministre de la Justice devant la Cour de Justice de la République. C'est d'avoir nommément déclenché des enquêtes administratives contre des magistrats au lieu de s'en tenir à ce qu'avait fait Nicole Belloubet, c'est-à-dire juste une enquête de fonctionnement. La mise en garde de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le syndicat de la magistrature n'est pas le seul à avoir eu un doute sur le risque de conflit d'intérêts du ministre. La plupart des procureurs généraux ont eux aussi interrogé la chancellerie. Puis, le 7 octobre 2020, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a elle aussi alerté le ministre. Je cite « Votre activité professionnelle passée d'avocat pourrait interférer avec votre fonction actuelle de ministre dans 2 cas de figure », écrit Didier Migaud, son président. Le premier porte sur les procédures judiciaires dans lesquelles vous êtes intervenu lorsque vous étiez avocat, le second pour les magistrats saisis de dossiers vous concernant. Et d'insister, je cite, toute décision relevant de votre compétence ou celle des services placés sous votre autorité, prise à l'égard de magistrats en charge de ces procédures en cours, serait également susceptible de créer un doute légitime sur l'exercice impartial et objectif de votre fonction. Si ce n'était pas assez clair, la HATPV ajoute, je cite, « Dans ce contexte, votre décision d'ouvrir une enquête administrative à l'encontre de trois magistrats du parquet national financier confiée à l'inspection générale de la justice, qui est placée sous votre autorité directe, et les conséquences que vous pourrez en tirer pourraient caractériser une situation de conflit d'intérêts. » Là, c'est clair, Didier Migaud, la HATVP, ne pouvait pas être plus clair. On est dans une mise en cause directe de prise illégale d'intérêt de la part du garde des Sceaux par la haute autorité. Le ministre a répondu qu'il avait, je cite, « mis en place un dispositif qui garantisse l'absence de toute remontée d'informations sur les dossiers qu'il avait pu connaître ». Il ajoute qu'il a retiré sa plainte et a rappelé qu'il n'était pas à l'origine de l'inspection de fonctionnement du PNF, c'était Nicole Belloubet. Il assure que le rapport de fonctionnement venait souligner un certain nombre de dysfonctionnements. J'ai demandé l'analyse au bureau de la déontologie et de la direction des services judiciaires qui a conclu à de possibles manquements déontologiques concernant les trois magistrats du parquet national financier, sous réserve d'un éclairage plus complet par le biais d'une enquête administrative. Éric Dupond-Moretti conclut, je cite, « Il n'y avait aucune raison pour moi de ne pas suivre cette préconisation qui faisait suite à une analyse scrupuleuse par les services disposant de connaissances approfondies dans les règles relatives à la déontologie des magistrats. Enfin, dit-il également, ce n'est pas lui qui a saisi l'inspection mais sa directrice de cabinet et ce sera au Premier ministre Jean Castex qu'il appartiendra de statuer sur d'éventuelles suites disciplinaires. » La défense de Éric Dupond-Moretti qui consiste à renvoyer la responsabilité sur sa chef de cabinet, sur sa directrice de cabinet, moi je la trouve assez légère. En revanche, je comprends l'argument de « bah ouais, enfin, si j'avais pas donné suite à l'inspection de fonctionnement qui disait bien qu'il y avait potentiellement des dysfonctionnements. » Ça, je comprends l'argument. Mais visiblement, ça a pas suffi pour le parquet qui a décidé de le renvoyer devant la justice. Une version contestable. L'affaire est un peu moins claire que ce qu'en dit le garde des Sceaux. Et la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a minutieusement reconstitué le réel déroulé des faits. Le 15 septembre 2020, Éric Dupond-Moretti reçoit officiellement le rapport de fonctionnement de l'inspection générale de la justice commandé par sa prédécesseur Nicole Belloubet. Sa directrice de cabinet en connaît la teneur depuis déjà 4 ou 5 jours. Or, il a le même jour rendez-vous à l'Élysée avec les 22 membres du CSM qui viennent rendre au président le rapport sur l'affaire Fillon. Il s'agissait de savoir si le PNF avait subi des pressions pendant l'enquête sur l'ancien Premier ministre. À la fin de la rencontre, l'un des membres du CSM demande en passant au ministre quelle suite il entend réserver à l'inspection de fonctionnement du PNF. À ce moment-là, a raconté Sophie Rey, le secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, le garde des Sceaux a haussé les épaules, il a dit « je vais saisir le Conseil des poursuites disciplinaires ». Les membres du CSM ont tous ouvert des grands yeux. « J'ai été très surprise », reprend Sophie Rey, « parce que je ne voyais pas comment une inspection de fonctionnement qui porte sur une structure où pouvait en déduire des poursuites disciplinaires contre des personnes dénommées ». Oui, c'est vrai ça. Parce que l'enquête de fonctionnement, elle ne nomme pas. Du coup, comment on fait pour savoir sur qui il faut enquêter ? C'est effectivement impossible sans passer par une enquête administrative. Mediapart a déjà raconté l'épisode, effectivement. En réalité, Éric Dupond-Moretti avait d'emblée l'intention de se servir de l'inspection de fonctionnement pour punir les magistrats du PNF. Paul Hubert, le nouveau directeur des services judiciaires, qui venait à peine d'arriver, a fait suivre le fameux rapport la veille, le 14 septembre 2020, à ses services. Catherine Mathieu, alors sous-directrice des ressources humaines de la magistrature, a été chargée de son analyse scrupuleuse, comme l'a écrit le ministre. Elle a reçu le rapport de l'inspection générale à 21h20 avec ordre de l'expertiser pour le lendemain 14h. Putain, c'est short. Et de répondre dans un tel degré d'urgence, je n'avais jamais connu, a exprimé la magistrate de la commission. Compte tenu de l'urgence, l'analyse portait sur de potentielles suites disciplinaires à partir de ce rapport. C'est un angle d'analyse extrêmement restreint. Ouais. Donc, encore une fois, on voit bien ce que reproche le parquet à Éric Dupond-Moretti. L'affaire est aussi urgente parce qu'Éric Dupond-Moretti doit répondre le lendemain, le 15 septembre 2020, à l'Assemblée nationale à une question d'Éric Ciotti sur le PNF. On s'en souvient, c'était en direct sur ma chaîne d'ailleurs. Et sa religion est évidemment déjà faite. S'il explique dans sa réponse au député qu'il attend l'analyse de la direction des services judiciaires, pieux mensonge, il a reçu l'analyse à 14h46, il dit notamment « Le rapport m'a été remis ce matin, on peut y lire un certain nombre de choses très intéressantes, un suivi interne distendu, qu'en termes choisis, ces choses-là soient dites. Sur le fond, il évoque déjà les trois points qui sont dans l'analyse de la DSJ. le suivi distendu, le manque de rigueur dans le traitement de la procédure, une remontée hiérarchique lacunaire de l'information. La commission de la CJR en a profité pour demander à Catherine Mathieu si elle voyait dans cette affaire un éventuel conflit d'intérêts. Cette question est tellement évidente qu'elle ne me paraissait même pas avoir été mentionnée. Qu'elle ne me paraissait pas devoir être mentionnée, a répondu l'obéissante sous-directrice. Il me paraissait évident qu'elle devait être évoquée en amont. On ne m'a pas demandé plus de développement sur cette question. Il est encore long l'article. Ouais, putain les gars, l'article il est beaucoup trop long. Hein. Ça vous dit si on s'arrête là? Parce que moi je commence à avoir la tête qui tourne là. Je vais faire une petite pause. Je vais me refaire un café et je reviens. Sloubi 59. Désolé, mais je commençais à avoir la tête qui tourne là. Il fallait que je mange un truc sucré parce que. Beaucoup trop indigeste l'article du Monde là. Quand je l'ai sélectionné pour la revue d'actu, je pensais qu'il était plus court que ça. Mais là, c'est vraiment l'article qui rentre dans le détail, hyper vénère. J'ai sursauté. Ah, pardon. Overdose de jargon juridique. Overdose de jargon juridique. Oui, non, je suis d'accord. Je pensais que ça allait être plus court que ça, un article qui synthétise un peu, mais en fait, c'est au contraire, c'est un article qui rentre dans le détail, qui explique tout. Donc, c'est un très très bon article, mais pas pour une revue d'actu sur Twitch, quoi. C'est la moustache, ça te pompe trop l'influx nerveux. Ouais, carrément. C'était quoi l'article? Je viens d'arriver. C'était un article du Monde qui récapitule l'affaire Éric Dupond-Moretti, donc le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, qui est présenté depuis aujourd'hui et jusqu'au 17 novembre devant un tribunal. Mais l'article était beaucoup trop chargé. Celui de Mediapart, il est peut-être mieux. Ah, Mediapart aussi, ils font des articles indigestes. Donc, on va s'en tenir là. Hein. On va s'en tenir là. Vous avez compris le fond du truc. Il est reproché à Éric Dupond-Moretti d'avoir bénéficié de ces conflits d'intérêts. Donc, c'est ce qu'on appelle une prise illégale d'intérêts. TLDR, c'est chaud. Ouais. Après, on a compris que ce dont il est accusé est chaud. Ouais, effectivement, c'est un peu chaud. Après, est-ce qu'il sera condamné? J'en sais rien. Je sais pas du tout. Rien à voir, mais ça se passe comment avec ton chat maintenant? Écoute, elle est toujours aussi peureuse. Ça, il y a pas beaucoup d'améliorations. Il y a des toutes petites améliorations. La nuit, elle vient, elle se met dans l'entremise-jour de la porte de ma chambre et elle me regarde. Est-ce que ça détend avec le CBD? Bah, c'est difficile de te dire en fait. Je me demandais si on peut t'envoyer des articles pour tes prochaines revues de presse, notamment avec des médias auxquels tu n'étais pas abonné. Je pense par exemple à la Tribune, les Échos, la Croix. Non, mais c'est pas la peine. Moi, je fais ma sélection d'articles pour ma revue d'actu, t'inquiète. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Macron le garde au ministère alors que le risque est énorme d'avoir un ministre condamné? Bah, s'il est condamné, il devra démissionner, ça c'est sûr. Mais c'est déjà chaud qu'il soit mis en examen et maintenu. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron le garde? Parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas envoyer l'idée que les magistrats peuvent sélectionner leur ministre de la Justice. C'est une opposition clairement entre un président de la République, un gouvernement et des magistrats. Et Emmanuel Macron doit, je sais pas, il doit avoir peur que les magistrats aient le dernier mot sur qui doit être le ministre de la Justice dans ce pays. Et c'est pas aux magistrats d'imposer le nom d'un ministre ou de dégager un ministre qu'ils n'aiment pas. Il va être condamné façon Sarkozy ou Balkany. Ben, ils ont été condamnés, Sarkozy et Balkany. Alors, Sarkozy, il s'est pourvu en appel et Balkany, il a fait de la prison. Il n'y a pas encore eu le procès, je crois, dans l'affaire des HLM de Levallois. Macron est le fameux dernier mot. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pas sûr, si condamné, il reste pas. Ah, bah, si Éric Dupond-Moretti est condamné par la Cour de justice de la République, il peut pas rester ministre. C'est ce qui a été rappelé par Elisabeth Borne l'été dernier. Il peut pas ou c'est mieux qu'il reste pas. Ah non, il peut pas, c'est la règle qui a été rappelée par Elisabeth Borne. Un ministre condamné par la justice ne peut pas rester ministre. Surtout dans le cas d'une condamnation par la Cour de justice de la République, qui, je le rappelle, est la seule formation judiciaire à même de juger les ministres pour des délits commis en tant que ministre. Ça sert à quoi un magistrat? Ça sert à juger. Ou à participer à l'œuvre de justice. Donc ça peut servir à enquêter aussi. C'est la règle morale du gouvernement ou une loi? Je crois que c'est une loi, hein. Je crois que c'est une loi, une condition pour être ministre. Quelles sont les conditions pour être ministre? Il y a une obligation de probité. Depuis 1988, dans le souci d'accroître la transparence de la vie politique, lorsqu'il est nommé, le ministre doit impérativement remplir une déclaration de situation patrimoniale, exercice qu'il devra renouveler à la fin de ses fonctions ministérielles. Il s'agit ainsi de vérifier que le ministre ne s'est pas indûment enrichi à l'occasion de ses fonctions. Les lois organiques de 2013 ont renforcé les obligations de transparence applicables aux membres du gouvernement, donc c'est les fameuses lois sur la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Déclaration de patrimoine. De leur entrée au gouvernement, les ministres et secrétaires d'État doivent confier la gestion de leurs instruments financiers à un tiers. Ils font en outre l'objet d'une procédure de vérification fiscale. Ok. Et les incompatibilités? La première des conditions est de ne pas exercer en même temps que ses fonctions ministérielles un mandat parlementaire, donc ça paraît logique. Les ministres ne peuvent pas non plus être membres du Conseil constitutionnel, du Conseil économique, social et environnemental ou du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne peut pas continuer à exercer une activité professionnelle, publique ou privée. En outre, il est d'usage qu'un ministre n'exerce pas de mandat de maire, bien que cette règle ne soit pas écrite, elle a été pratiquée, elle a été rappelée par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe en 2019. Bah oui, mais elle s'applique pas à Gérald Darmanin qui reste maire. Et ben, je vois pas d'incompatibilité là. Je vois pas d'incompatibilité au fait d'avoir été condamné. Je sais pas s'il y a une loi qui prévoit ça. Y a rien sur les condamnations. Bah, en tout cas, là, sur ce site-là, sur laviepublique.fr, non. Pourquoi leur demander de démissionner et non pas un licenciement pour faute grave? Parce qu'un licenciement, ça renvoie à ça renvoie à un contrat de travail. Les ministres ne sont pas des travailleurs, ce ne sont pas des salariés, ce sont des agents investis d'une fonction exécutive. Donc il n'y a pas de licenciement possible. Hop. Il est toujours maire Darmanin, il n'a pas démissionné. Bah, j'ai un doute là-dessus. J'ai un doute là-dessus, je vais aller vérifier sur sa page Wikipédia. Il est ministre de l'Intérieur, conseiller départemental, député, maire de Tourcoing. Il est resté maire. Non, il est resté maire de mai à septembre 2020. Il a démissionné de son mandat de maire. Il a démissionné de son mandat de maire en septembre 2020. Donc il ne cumule plus. Il est conseiller municipal. Oui, il est toujours conseiller municipal. Pardon. Il est toujours conseiller municipal, il est toujours conseiller départemental également, mais ça, ce n'est pas visé par la loi sur le cumul des mandats. Je rappelle que le cumul des mandats, c'est interdit uniquement si vous cumulez un mandat de parlementaire avec un mandat avec une fonction exécutive locale, avec un mandat exécutif. Exécutif, ça veut dire maire ou président de conseil départemental, ou adjoint au maire, ou vice-président de conseil départemental ou régional. C'est Le Drian qui était resté président de la Bretagne. C'est possible. Je sais plus combien de temps. Jean-Yves Le Drian. Ministre de la Défense de 2012 à 2017. Président du Conseil départemental. Non, il avait démissionné en juin 2017, juste après sa nomination en tant que ministre. Ah si, non, pardon. Si, 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 t'as raison. T'as raison. Il est resté président du Conseil départemental pendant 2 ans. Ah, t'as raison. Il est resté président du Conseil départemental, du Conseil régional, pardon, de Bretagne pendant 2 ans, de 2015 à 2017, alors qu'il était ministre pendant ce temps-là. Mais je rappelle que ministre, ce n'est pas un mandat de parlementaire, donc la loi sur le cumul des mandats ne s'applique pas aux ministres. C'est un usage, c'est pas écrit dans la loi. C'est trop compliqué. Non, non, ça va, c'est facile à comprendre. Les ministres sont nommés et donc ils peuvent être révoqués sans besoin de justification, exactement. Exactement. Le Drian, c'était avant la loi sur le cumul, sur le non-cumul. Non, c'était pendant, parce que la loi sur le non-cumul, elle est entrée en vigueur en 2014. T'as l'air tout enrhumé. Bah, j'ai les sinus qui sont pris, mais ça va. Hein. En vrai, ça va. Je crois que le Premier ministre a le pouvoir de révoquer les ministres. Bien sûr, le Premier ministre peut tout à fait révoquer les ministres, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. C'est le Premier ministre qui nomme les ministres. Techniquement, c'est le président de la République qui nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Donc c'est le président de la République qui nomme après avoir consulté le Premier ministre. La distinction est importante parce qu'en cas de cohabitation, c'est effectivement le Premier ministre qui propose et le président de la République qui est forcé d'accepter. Le Premier ministre, ça reste un exécutant. Si et seulement si le président de la République a une majorité à l'Assemblée. Attention, c'est la majorité à l'Assemblée qui détermine la couleur du Premier ministre, pas le président de la République. Après, le Premier ministre est nommé par le président, donc s'il y a un gros désaccord, il peut toujours le virer. Oui, bien sûr. Après, le Premier ministre. Ah non, putain, mais non, mais attends, non, j'avais mal lu la phrase. Excuse-moi, j'avais mal lu ce que t'as écrit. T'as écrit, le Premier ministre est nommé par le président, donc s'il y a un désaccord, il peut toujours le virer. Bah non, la réponse est non. Non, c'est ce que je vous expliquais. C'est que c'est de la couleur de la majorité des députés à l'Assemblée nationale que dépend la couleur du Premier ministre. Le président de la République ne peut pas disposer librement d'un Premier ministre si il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. S'il a une majorité, oui, il peut. Il peut nommer quelqu'un d'autre. Mais s'il n'a pas de majorité qui lui obéit à l'Assemblée nationale, il ne peut pas choisir lui-même le Premier ministre. C'est qui l'exécutif au juste? Juste le président. Non, l'exécutif, c'est le pouvoir exécutif représenté par les ministres, le président de la République et le Premier ministre. C'est ça l'exécutif. Le pouvoir exécutif, il est entre les mains du Premier ministre et du président de la République, qui se le partagent plus ou moins bien en fonction de s'il y a une cohabitation ou pas. Et les préfets? Ah, les préfets représentent l'État dans les territoires. Ce sont des agents de l'État, les préfets. Il peut nommer quelqu'un d'autre du même camp politique. Oui, mais si ce camp politique l'accepte. Si et seulement si ce camp politique l'accepte. Qui font partie du législatif aussi. L'exécutif ne fait pas partie du législatif. L'exécutif est responsable devant l'Assemblée nationale, qui fait partie du pouvoir législatif, mais les ministres ne votent pas les lois. Les ministres ne peuvent pas voter les lois. Ils peuvent proposer des lois, mais ensuite c'est bien le législatif qui en décide. Exactement ce qui est en train de se passer, comme on l'a dit tout à l'heure, avec le projet de loi sur l'immigration, qui fait l'objet de discussions actuellement. Est-ce que le président, il peut dissoudre indéfiniment l'Assemblée nationale? Non, il peut pas dissoudre indéfiniment l'Assemblée nationale, le président. Il est obligé de mémoire, il doit attendre un an après les dernières élections avant de pouvoir dissoudre à nouveau. On aura peut-être une dissolution de l'Assemblée avant 2027. Moi, je pense pas qu'il y aura une dissolution de l'Assemblée avant 2027. Il y aura peut-être un référendum, par contre. Je ne suis pas sûr que la différence entre l'État et le gouvernement soit claire. L'État, c'est la machine administrative, le gouvernement, c'est les pilotes de cette machine administrative. Je ne peux pas faire plus simple. C'est comme la différence entre le bateau et le capitaine. Le bateau, c'est la machine, le capitaine, c'est le bonhomme qui dirige la machine. Bah, le gouvernement et l'État, c'est pareil. Pourquoi le président ne sert pas simplement à présider et laisser les ministres gérer leurs affaires en restant en arrière? Bah, c'est plus ou moins ce qui se passe, mais tu remarqueras que le président de la République, il est élu au suffrage universel direct, ce qui lui donne de fait un pouvoir et une influence très importante. Un président qui a une majorité à l'Assemblée nationale, il peut présider très facilement. Il peut diriger l'exécutif. Il peut avoir son mot à dire sur les dossiers. Un président qui perd les élections législatives, à ce moment-là, c'est plus lui qui a la main. Il peut plus regarder les dossiers. C'est son gouvernement. C'est un gouvernement d'opposition, du coup, qui gère le pays. C'est qui les pirates dans la... C'est qui les pirates dans la métaphore? Putain. Bon, on va s'arrêter là, les amis, je pense. Il est déjà 18h. Fait 2 heures de stream, c'est pas mal. Je vais vous montrer quand même la proc de la semaine. Où est-ce qu'on se retrouve, à quelle heure? Hop. Regardez-moi ça. Donc aujourd'hui, c'était la revue d'actu politique. Demain, on se donne rendez-vous à 14h pour les questions au gouvernement à l'Assemblée, comme tous les mardis. Mercredi à 15h, on fait une FAQ politique. Chill. Je réponds à vos questions. Jeudi, il y a Backseat à partir de 18h30. Et vendredi, je sais pas encore si je stream. Ça dépendra de mon état de santé. Notez bien les horaires dans vos agendas. Ça, c'est la proc de la semaine. Vous pouvez la retrouver sur Twitter. Dans les tweets épinglés. Et il me reste plus qu'à vous remercier. Vous pouvez venir jeudi dans le public de Backseat, d'ailleurs. Hein. Point d'exclamation place. Et vous pouvez prendre vos places pour venir dans le public de Backseat. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à faire des dons pour participer au financement. Regardez le prochain palier. Je traverse l'Atlantique sur Flight Simulator avec le Spirit of Saint-Louis, l'avion de Charles Lindbergh. On va essayer de le faire. Merci les copains. Allez voir le Twitter de Backseat. On a annoncé un premier invité. Allez voir. Des bisous. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Ciao.